Bonjour à toutes et à tous. Le temps de vous installer. Bienvenue à l'espace Mendès France. Monsieur le Président, cher Yves, Monsieur le Doyen, cher Pascal, je suis heureux de vous accueillir ce matin pour cette journée dont la thématique est plus qu'importante, hein, sur les nouvelles régions, les territoires. Et puis, avant peut-être de laisser la parole à notre président, expliquer en deux mots pourquoi et comment l'espace Mendès France se trouve ce matin à vous accueillir pour cette discussion, cette réflexion d'importance. On a plein de bonnes raisons de ne pas être ensemble ce matin. Ça commence bien, hein.
Vous... Beau, on pourrait être dans votre jardin.
Alors, éventuellement, vous pourriez être dans votre jardin. Non, simplement... Je vous rappelle que vous êtes dans un centre de culture scientifique, technique et industrielle, un acronyme inventé par quelques technocrates au milieu des années 80, un CCSTI. Alors quand je disais qu'on avait plein de bonnes raisons de ne pas être ensemble ce matin, c'est que font les sciences de l'homme et de la société au sein d'un centre de culture scientifique, technique et industrielle qui a été lancé à la fin des années 70 par des physiciens, des chimistes, des ingénieurs, quelques biologistes, mais également des acteurs de l'éducation populaire. Qu'est-ce que fait un colloque dans un centre de culture scientifique, technique et industrielle qui est censé recevoir chaque année, ce qui est notre cas, des petits bambins qui, de l'âge de 3 ans à l'âge de 25 ans, alors c'est des bambins étudiants en l'occurrence, viennent arpenter nos couloirs pour aller se confronter aux mathématiques, à la nutrition, à la santé, aux problèmes du cerveau, de l'addiction, etc. etc. Et puis, pour finir, qu'est-ce qu'un bâtiment à Poitiers a à voir avec un territoire de référence ? Alors, on avait éventuellement plein de bonnes raisons de ne pas être ensemble. Puis, on a aussi encore plus de raisons d'être ensemble ce matin. D'abord, parce qu'à titre personnel, je suis un ancien de la territoriale et que le tropisme des territoires a toujours fait partie de mes tendances professionnelles et militantes. Si l'espace Mendès France est le seul centre de culture scientifique de France à se préoccuper de sciences humaines, à se préoccuper de territoire, ça n'est pas par hasard. C'est aussi parce que la question de la culture scientifique, elle est posée actuellement et encore plus qu'auparavant dans un rapport étroit entre les contributions que les membres de la communauté des sciences dites dures peuvent avoir à l'égard de nos publics, mais également comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en perspective. Et qui mieux que les historiens, les géographes, les sociologues, les économistes peuvent mettre en perspective dans un rapport étroit et un discours lié avec vos collègues des sciences dures, la culture scientifique étant plutôt représentée autour de ces thématiques. Donc la volonté de cette maison est de mettre en perspective historique, sociale et politique les éléments de contribution des sciences. Donc ce centre de culture scientifique est rapidement devenu un lieu de rencontre et dans la lignée de ce que Yves Jean a fait au sein de l'université depuis de nombreuses années, s'est transformé peu à peu, sans discours, en une université ouverte, populaire, qui tout au long de l'année met en place une programmation qui vous permet d'être ici, dans cette salle, pour un travail de fabrique de la connaissance, de confrontation, mais également dans cette salle, puisque je connais un petit peu les têtes qui sont ici, vous avez des citoyens de Poitiers qui sont venus nous rejoindre, vous rejoindre pour discuter. Donc, on aurait eu a priori peu de chances de se retrouver autour des sciences humaines quand ce centre a été créé au milieu des années 80. Et on a maintenant, plus que jamais, la possibilité, à travers le travail de ce centre, de pouvoir tricoter, lier, comme dit Edgar Morin, qui était récemment ici, lier les connaissances telles qu'elles sont. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir. Ce lieu, statistiquement, reçoit entre 55 000 à 60 000 personnes par an. Le travail en région, c'est pas loin de 100 000 personnes maintenant. L'espace Mendès France, c'est plus de 60 000 scolaires, c'est plus de 2 000 classes. Donc si vous faites le décompte et une petite soustraction, vous vous rendez compte que nous avons majoritairement ce qu'on appelle un grand public qui se retrouve tous les jours ici. D'ailleurs, ce soir, nous aurons encore deux conférences grand public complémentaires. Et puis, ce centre n'existerait pas en termes d'image sans l'écrit. Vous verrez bientôt que le CNRS vient de publier un ouvrage sur les rapports entre connaissance, science et diffusion culturelle. Le seul centre qui a été choisi en France par le CNRS, un article d'une quinzaine de pages, c'est l'espace Mendès France. Et puis à travers ça, je voulais aussi saluer la présence de Jean-Luc Terradillo, le rédacteur en chef de l'actualité. Alors l'actualité que nous avons éditée et sortie en présence d'Edgar Morin voici quelques mois, l'actualité Nouvelle-Aquitaine, était dédiée en grande partie aux travaux des économistes et géographes. Les 4000 numéros ont été écoulés en très peu de temps. Donc nous avons fait un tiré à part qui est arrivé il y a quelques jours pour vous ce matin. Donc il est sur la table là-bas. Et donc on a un dossier spécial dédié à vos travaux. Et c'est un honneur et un plaisir de pouvoir le faire, de le diffuser également via Internet et de le diffuser en région auprès de plus de 200 élus dans les 430 lycées, mais également en kiosque. Donc pour vous dire que ce que vous faites ici, hormis le fait que ça soit enregistré et accessible grâce à UPTV, ce sont des éléments qui nous permettent de donner du grain à moudre à nos concitoyens pour mieux réfléchir à leur environnement et au territoire de demain. Donc tout un tas de bonnes raisons finalement, j'arrive de vous accueillir. Donc merci à toutes et à tous pour le travail que vous ferez aujourd'hui ici à l'Espace Pendès France.
Bien, merci Didier pour cet accueil scientifique toujours de haute volée et c'est une chance pour la ville de Poitiers et pour cette nouvelle région d'avoir cet espace où nous étions il y a deux semaines avec François Dubasque et des collègues de la Fédération Territoire pour un colloque sur Mitterrand et ses territoires, et cela fait vraiment plaisir. Monsieur le directeur de la Fédération Territoire, de se retrouver à nouveau à l'Espace Pendès France pour ce colloque sur les nouvelles régions et la grande transformation. En introduction, le redécoupage des régions, et merci Pascal d'avoir pris cette initiative de prendre cet objet géographique au sérieux et de dire que c'est une belle opportunité pour regarder la transformation des politiques publiques et d'enclencher un travail actif sur ce redécoupage régional. Ce redécoupage régional s'inscrit dans un débat qui date de 1789, dont je vous rappelle les termes. En 1789, il y a un débat entre Condorcet, Tours et Seyès et Mirabeau sur la question de la transformation des paroisses en communes. Je rappelle la donne, je prends quelques risques devant nos collègues historiens, 44 000 paroisses, et Condorcet explique avec Tours et Seyès qu'il faut transformer ces 44 000 paroisses grosso modo en 10 000 communes pour qu'elles disposent d'un pouvoir économique pour pouvoir agir, et qu'elle dispose d'édiles politiques suffisamment en capacité de prendre des décisions pour pouvoir agir. Cela signifie que l'espace local doit disposer de ressources économiques pour disposer de marge de manœuvre et disposer de capacités pour agir, de capacités cognitives. Et puis Mirabeau explique de façon très claire, d'une part, qu'il faut transformer les 44 000 paroisses en communes, et il convoque l'histoire, il convoque la culture, et hier comme aujourd'hui, ces questions-là sont convoquées. Et puis, il explique très clairement qu'il faut maintenir le pouvoir central et donc qu'il y ait un émiettement communal. Et on est au cœur des questions concernant la réorganisation territoriale, qu'elle soit régionale ou qu'elle soit intercommunale. Ensuite, je vais être bref sur les grandes étapes concernant le pouvoir régional, mais incontestablement, de 1956 à aujourd'hui, nous avons une lente mais régulière montée en puissance du pouvoir régional. Je vous rappelle quelques étapes, même si vous les connaissez sans doute. 1956, c'est la délimitation des quarts, des circonscriptions d'action régionale, et l'État fait le choix de délimiter 21 circonscriptions d'action régionale qui deviendront 22, puisqu'en 1970, la Corse obtiendra le statut d'établissement, ensuite d'établissement public régional, et deviendra une région et se séparera de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais le pouvoir central fait le choix de l'émiettement et de la dispersion des circonscriptions d'action régionale pour maintenir son pouvoir. Et puis ces circonscriptions n'ont pas de pouvoir puisque c'est le préfet qui joue un rôle majeur. le référendum de 69 avec un discours de Lyon que tout le monde connaît, celui de De Gaulle, dont je vous cite juste deux phrases. 25 mars 68. L'effort multiséculaire de centralisation qui fut longtemps nécessaire pour réaliser et maintenir son unité ne s'impose plus aujourd'hui. Au contraire, ce sont les activités régionales qui apparaissent comme les ressorts de sa puissance de demain. De Gaulle symbolise, s'il en est, l'État central et le pouvoir central. Et De Gaulle, en 68, fait le constat que les dynamiques régionales sont au cœur de la croissance économique du pays. Olivier Guichard va prôner à cette époque-là une véritable autonomie financière pour les collectivités territoriales et il va prôner également l'élection d'un organisme de décision, le Conseil régional, où les hommes seraient représentés, les hommes au sens générique, même si avec Olivier Guichard ce n'est pas certain, seraient représentés à la fois en fonction du sol qu'ils habitent et des groupes sociaux et professionnels auxquels ils appartiennent. Et puis, Chaban, en 72, lance, essaie aussi de réformer le pouvoir régional et de donner du pouvoir aux régions, avec un débat qui va déboucher sur la loi du 5 juillet 72 et la création des établissements publics régionaux, un débat qui est au cœur des enjeux aujourd'hui, un débat qui concerne deux questions, le nombre et la taille des régions, et puis la nature juridique de l'établissement public régional. Sur le nombre et la taille des régions, le débat en 72 est entre 8 à 10 régions organisées autour des métropoles ou la continuité des circonscriptions d'action régionale et l'Europe, la communauté économique européenne prône la constitution de 8 à 10 régions et puis c'est le pouvoir central qui l'emporte et on reproduit les circonscriptions d'action régionale et donc il y a 22 régions très disparates tant en termes de peuplement que de degré d'urbanisation ou de poids économique. Et sur la nature juridique, Servan-Schreiber anime le débat et il prône une collectivité territoriale, personne morale de droit public du même type que le département et la commune, qui peut prélever l'impôt et qui est lié au suffrage universel, les conseillers régionaux. Et puis l'autre position, portée par les Debré et autres, c'est un établissement territorial avec des compétences réduites, spécialisées, aux attributions limitées, sans budget autonome. Et l'établissement public régional va être dépendant des dotations de l'État. Je rappelle qu'en 1974, c'était une dotation de 15 francs par habitant, donc une très faible capacité d'investissement. La rupture, incontestablement, nous l'avons évoqué, François, lors du colloque, il y a deux semaines avec François Mitterrand et les territoires, la rupture, ce sont les lois de décentralisation de 82-83. C'est la suppression de la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales, c'est la suppression aussi, je dirais, de la hiérarchie entre les collectivités territoriales, c'est surtout l'élection au suffrage universel des conseillers régionaux à partir de 1986. En quoi c'est quelque chose d'essentiel ? Cela conduit obligatoirement à un débat public sur un projet régional. Et donc, il y a une appropriation citoyenne des enjeux, tout au moins, il peut y avoir une appropriation citoyenne des enjeux. Et puis, la région est en capacité de prélever l'impôt et il est logique que lorsque l'on prélève l'impôt, il y ait élection au suffrage universel des élus. Je pense que c'est un des enjeux des structures intercommunales d'aujourd'hui. Il est anormal que ces structures, je dirais, ne soient pas représentées par des élus au suffrage universel, mais dans quelques années, nous irons vers cela. Et donc, on voit avec les lois de décentralisation un nouveau rôle des collectivités territoriales se mettre en place, une nouvelle scène locale se mettre en place. Les élus vont disposer de moyens financiers pour pouvoir agir. Et c'est un changement de donne radical qui date des années 80. Je n'oublie pas le rapport Balladur qui prônait une réorganisation des régions. Je n'oublie pas l'action de Jean-Pierre Raffarin qui met dans la Constitution la notion de territoire. Et la République devient une République territorialisée. Changement aussi institutionnel très important. Et puis la loi du 27 janvier 2014, que si je vous fais toutes les lois, voilà, on va être trop long. La loi du 27 janvier 2014, qui est une loi importante, dont on ne parle pas suffisamment, me semble-t-il, loi de modernisation de l'action publique territoriale et de l'affirmation des métropoles. C'est la reconnaissance du fait métropolitain en France. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas débat autour de ce fait métropolitain. Olivier Boubolga va nous en parler dans un instant. Et puis la loi NOTRe du 7 août 2015, qui se traduit par une nouvelle organisation territoriale de la République, avec deux éléments, le renforcement du pouvoir régional et le renforcement du pouvoir intercommunal. François Hollande, le 2 juin, vous connaissez l'histoire 2014, parce que là vous l'avez vécu en direct, annonce la réorganisation régionale. Je rappelle, Poitou-Charentes était avec la région Centre, la région Limousin, les seuls qui étaient satisfaits, c'était les présidents d'université, puisque nous avions créé une communauté d'université entre Paris, Nantes et Bordeaux qui avait du sens à cette échelle-là. Le 18 juin, du fait des pressions successives, le Limousin a rejoint l'Aquitaine. Ça ne gêne personne. Le Limousin est une région pauvre. Ne vous sentez pas agressé si vous êtes du Limousin. C'est une région pauvre et ça ne préoccupe pas grand monde, les régions pauvres. Et puis, le 15 juillet, la carte définitive est un peu différente puisque Ségolène Royal avait proposé que Poitou-Charentes soit avec Pays de la Loire, ce qui ne serait sans doute pas plus simple pour Poitiers. Mais Poitou-Charentes, sous la pression et de la droite, Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau, mais aussi du Parti Socialiste de Charente et de Charente-Maritime, a fait basculer le Poitou-Charente vers l'Aquitaine avec la région Limousin, et donc il y a une nouvelle région, nouvelle Aquitaine. Élection en décembre 2015, un nouvel exécutif. Au regard de cette nouvelle donne, merci aux collègues, historiens, économistes, géographes, juristes, sociologues qui ont décidé de travailler sur cette question. Et nous sommes là sur une première journée, un premier colloque sur cette question. Et je dirai dans un instant pourquoi une première journée. Pardon. Cette première journée, vous l'avez vu dans le programme, est organisée autour de trois entrées ou de trois questions. Une première phase de déconstruction, ou plutôt, si mes collègues me le permettent, une réflexion critique sur les modes de pensée. Le terme de déconstruction pouvant être un peu peut-être intellectuel, c'est surtout les universitaires jouent leur rôle en disant est-ce que cette nouvelle organisation, est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est autre chose ? Avec en arrière-plan cette question portée par Condorcet, Touré, Seyès, est-ce que les nouvelles régions disposent de marge de manœuvre pour intervenir sur le plan économique, pour influer sur les trajectoires spatiales, pour influer sur les dynamiques spatiales et sociales ? Voilà la question qui est posée. Nous savons que cet argument, et Olivier Boubolga et Emmanuel Nadeau vont le rappeler dans un instant, cet argument est initié et porté par l'Union européenne avec les régions à l'échelle européenne. L'Union européenne prône la création de grandes régions sur un postulat qui consiste à dire plus la taille est grande, plus sont efficaces les politiques publiques. Et donc, nous sommes dans une région XXL et nous verrons avec Olivier et Emmanuel si cette région XXL est obligatoirement plus efficace que d'autres régions. En tout cas, ils vont aborder et sans doute déconstruire cette notion-là en abordant la diversité des tailles, des configurations et des performances des régions à l'échelle européenne. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on réfléchit à la réorganisation régionale en France. Notre collègue Loïc Levoyer, qui est au Japon, et donc je l'excuse, juriste, a produit un papier très intéressant sur la question budgétaire et financière en lien avec la communication d'Olivier Boubolga et d'Emmanuel Nadeau sur les questions budgétaires et financières. Un simple rappel, cette région Nouvelle-Aquitaine, 5,8 millions d'habitants, 2,5 milliards de budget, une région semblable en Allemagne à 25 milliards de budget. Troisième entrée, c'est la question de la capacité à décider. Pour agir, Bergson nous a dit cela il y a longtemps, pour agir, il faut connaître. Et de ce point de vue-là, je vous invite à regarder une publication récente de l'INSEE qui montre qu'il y a 8 types de trajectoires en termes de dynamique territoriale et qui casse le clivage urbain-rural qui n'a pas de sens sur ces questions-là et qui montre que la réalité territoriale est bien plus complexe que ce que l'on pense très souvent. Et dans le même esprit, Dominique Royou et Mathieu Lee vont nous présenter le travail qu'ils sont en train de réaliser sur les petites villes, ces petites villes qui jouent un rôle important dans l'armature urbaine. Ils vont vous montrer la diversité des trajectoires de ces petites villes. Et là encore, si on veut mettre en place une politique urbaine en direction de ces petites villes, il faut connaître cette diversité des trajectoires et ne pas avoir une position trop générale. Enfin, autre élément dans cette première partie, c'est la question de l'articulation entre l'espace institutionnel et l'espace fonctionnel. Aucun cadre administratif, aucune délimitation, si Poitou-Charentes avait été avec Pays de la Loire, avait été avec la région Centre et Limousin, aucun cadre administratif ne peut permettre de traiter tous les enjeux qui concernent les territoires et qui concernent les habitants. Il est rare que les enjeux économiques s'enferment dans des délimitations régionales, quelle que soit la taille des régions et quelles que soient les délimitations des régions. La filière bois ne peut pas être analysée et traitée à la même échelle que la filière numérique. Les enjeux de santé, qui seront abordés par Serge Bernard, ne peuvent pas être articulés aux mêmes échelles d'action publique que les enjeux liés à la recherche. Donc, faisons attention à ne pas attribuer au cadre institutionnel plus de pouvoir qu'ils n'en ont. C'est une vraie question scientifique. La cohérence de l'action publique est liée à la cohérence des acteurs et plus qu'à des délimitations qui seraient des délimitations soit naturelles ou des délimitations où l'on convoquerait la culture. Parmi les sujets qui ont été largement médiatisés par le nouveau président de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est l'adéquation entre la réorganisation régionale et la reconfiguration de l'espace de l'enseignement supérieur et de la recherche. Eh bien, vous allez voir avec Bastien Bernella et Liliane Bonal que les flux des étudiants ne se préoccupent pas trop de cette réorganisation régionale de la Nouvelle-Aquitaine et que c'est un peu plus compliqué que cela et qu'il n'y a pas obligatoirement adéquation entre les flux des étudiants étudiés sur plusieurs générations, hein, de 1998 à 2007, et puis ce redécoupage régional. Donc, interrogation sur les articulations espace institutionnel et espace fonctionnel. Deuxième partie de cette journée, c'est la question des stratégies et des résistances. Notre collègue Pierre-Charles Pupion, qui je crois est absent, mais en tout cas qui nous a adressé une communication tout à fait intéressante, rappelle qu'il y a un lien étroit depuis le début des années 80, depuis les lois de décentralisation, entre territoire et marketing territorial dans une logique de concurrence entre les territoires qu'il ne faut pas oublier. On oublie trop souvent cette dimension et son papier est particulièrement intéressant sur l'analyse du logo de la nouvelle région. Je vous inviterai à lire ce papier. Mais vous allez voir en écoutant Fabrice Vigier, notre collègue historien, que la question de la concurrence entre les territoires n'est pas une question nouvelle. Que la concurrence entre les idées locales, elle existe, j'ai envie de dire, depuis que les sociétés existent, et elle est liée aux réseaux locaux et nationaux, elle est liée aux enjeux d'influence, et Fabrice étudie avec beaucoup de brio, j'ai trouvé, la façon dont Poitiers, une des grandes cités du Royaume de France, entre le XIIe et la moitié du XVe siècle, va profiter de la création de nouvelles circonscriptions et administrations royales. Mais vous verrez également que ces édiles vont être très actifs, les édiles de Poitiers vont être très actifs contre la création de l'université à Angoulême ou l'instauration d'un présidial à Lagnieure et à Fontenay-le-Comte, pour ne citer que ces exemples. Et vous verrez en écoutant Fabrice Vigier qu'il y a d'autres exemples qui sont révélateurs des rapports de force qui existent entre le local et le national et qui expliquent l'évolution des fonctions urbaines à Poitiers, mais aussi l'évolution des fonctions urbaines à Angoulême, à Lagnieure ou à Fontenay-le-Comte ou à La Rochelle, puisqu'il évoque aussi La Rochelle. Et puis ensuite, avec un saut de puce dans le temps, au regard de l'histoire de l'humanité et des travaux d'Abder El Albani, c'est vraiment un saut de puce dans le temps, Pascal Chauchefoin se demandera si Poitiers n'a pas manqué un rendez-vous avec son potentiel et sa spécialisation dans le tertiaire supérieur. À l'heure où la société connaît une véritable révolution centrée sur les connaissances et les savoirs, ou comment valoriser un potentiel singulier sans vouloir copier d'autres modèles de développement j'ai évoqué ce papier hier soir au conseil municipal suite à l'intervention de quelqu'un qui nous expliquait que Poitiers n'avait aucun potentiel et qu'il fallait développer l'emploi privé. J'ai rappelé, j'ai invité cet élu à lire ton article que je vais lui envoyer pour lui dire que comparaison n'est pas raison et l'histoire d'Angoulême ou Nodieur n'est pas la même qu'à Poitiers. Et donc faisons attention là aussi à ces questions et développons de façon singulière les atouts dont on dispose. Troisième thème, les réorganisations. Troisième thème, les réorganisations après la pause de midi. On revient à cette question de l'articulation de l'espace institutionnel et fonctionnel. Et là, trois communications. Celle de Thierry Sauzeau, qui va traiter des territoires d'intervention des politiques maritimes d'Ancien Régime, hein, au 16e et du 16e au 18e, ou comment les réformes territoriales influent sur le rôle de chaque port, ainsi bien autant que la marine et les guerres. Tu évoques de façon passionnante comment Bordeaux devient une capitale maritime de l'économie atlantique et les liens avec les rivages de la Saintonge, avec ceux du Pays Basque ou du Médoc, et comment l'ONIS résiste. Et ce lien entre les ports et les territoires de l'intérieur est particulièrement intéressant pour comprendre le développement inégal au fil du temps des sociétés rurales. Depuis le début des années 2000, eh bien Gilles Kerr va nous rappeler que les pouvoirs publics ont découvert l'intérêt de l'économie sociale et solidaire. Cela va être d'ailleurs cristallisé dans deux lois qui sont connues par un certain nombre d'entre vous qui concernent l'économie sociale et solidaire. D'une part, la loi relative à l'ESS du 31 juillet 2014 et puis la loi NOTRe qui territorialise, qui régionalise cette question de l'économie sociale et solidaire. Gilles Kerr va souligner l'ancrage territorial de l'ESS dans cette nouvelle région. Et puis, il s'interroge sur la pertinence du découpage régional au regard de cet enjeu et il analyse de façon fine et passionnante les réseaux et les reconfigurations en Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi une communication très stimulante qui précède celle de notre collègue Serge Bernard, sociologue, qui aborde un autre enjeu majeur pour les habitants de cette nouvelle région. Ce sont les questions de santé et les configurations territoriales nouvelles. En conclusion, Olivier Coussy et Jérôme Méric vont s'interroger. Olivier m'a dit de façon un peu provocante, mais quand on le connaît, on sait que c'est normal. Et de façon stimulante, j'ai envie de dire, sur les nouvelles régions avec un titre évocateur, mode ou modèle de management public. Et cette conclusion, c'est une conclusion d'ouverture avant que Pascal Chauchefoin ne trace les perspectives de cette journée. Vous le voyez, et pour avoir lu l'ensemble des communications, vous allez le voir, ce sont des communications particulièrement stimulantes, particulièrement riches, qui mettent en débat les questions, qui n'apportent pas de réponse, hein, qui mettent en débat les questions, et c'est l'objectif de cette journée, qui est une première journée, un premier colloque sur cette question, puisque les sujets à aborder sont très très nombreux. J'en pointe simplement quelques-uns. C'est la question d'une analyse comparative avec d'autres régions. Comment les politiques publiques sont élaborées suite à la fusion de la Normandie? Qu'est-ce qui se passe entre Rhône-Alpes et Auvergne? Et est-ce que, je dirais, la stratégie en termes de gouvernance choisie par la région Nouvelle-Aquitaine est spécifique de cette région, liée à un leader particulier, ou est-ce que c'est un modèle que l'on retrouve dans d'autres régions? Voilà une des questions qui est posée. Quel type de gouvernance dans ces nouvelles régions? Quid, par exemple, d'une assemblée telle que le Césaire? Quel est son rôle dans les différentes régions réorganisées? Et puis, quid des habitants? Je vous invite à lire un ouvrage de 1976 du géographe Armand Frémont, La région, espace vécu, où Armand Frémont rappelle que l'habitant a un rapport au territoire singulier, il y a des perceptions, des représentations qui sont à prendre en compte, comment les habitants perçoivent et se représentent cette réorganisation régionale. Voilà un enjeu important. Quelle est la place des citoyens dans ces nouvelles régions? Voilà autre sujet important. Et puis, je termine par un autre sujet en lien avec la loi NOTRe et la réorganisation régionale, c'est la mutation très rapide au 1er janvier 2017 de l'intercommunalité. Juste deux chiffres, 2062 structures intercommunales en 2016, 1266 en 2017. On a une vraie métamorphose du paysage intercommunal, une communauté urbaine qui enfin associe Poitiers, le périurbain et l'espace rural de faible densité. C'est particulièrement intéressant en termes d'évolution des politiques publiques. On voit que les structures intercommunales ont fusionné. On a là pour des historiens, des économistes, des géographes, des juristes, des sociologues, des sujets de recherche passionnants pour voir comment évoluent les politiques publiques. Est-ce qu'elles permettent de réduire les inégalités territoriales et les inégalités sociales? Voilà de beaux sujets pour les jours et les mois à venir pour les uns et les autres. Merci, et je termine par cela. Merci aux organisateurs, merci à Mathieu et à tous ceux qui ont organisé cette journée. Et on peut dès à présent les applaudir et les féliciter. Merci.
Bien, vous venez d'avoir une présentation extrêmement complète du programme qui nous attend, donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps avant de commencer la journée. Je voulais simplement insister sur quelques éléments et notamment l'originalité de cette fédération de recherche territoire et vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc je le fais très rapidement et puis nous allons écouter les intervenants. Je sais que le programme est très chargé aujourd'hui. Cette fédération de recherche territoire, elle est née en 2010 à l'initiative de Yves Jean, qui partait d'un constat qui consistait à faire un peu l'histoire de cette université de Poitiers et de constater qu'un très grand nombre de chercheurs avaient orienté leurs travaux sur l'analyse des territoires et qu'ils venaient de disciplines extrêmement différentes. Et que c'était pas très visible dans le paysage universitaire poitevin, mais que malgré cela, beaucoup de compétences avaient été accumulées au fil des années, et qu'il était peut-être judicieux de manifester ces compétences et de les réunir pour articuler l'ensemble de ces travaux, et puis avoir une identité liée à ces spécialisations de recherche. Et donc, on s'est réunis à quelques-uns pour commencer à travailler sur la structuration de cette fédération. Et puis, de fil en aiguille, nous avons réuni géographes, historiens, juristes, gestionnaires et économistes autour des questions territoriales. Évidemment, les choses sont très intéressantes à aborder de différents points de vue. Nous avons organisé plusieurs colloques qui avaient pour thème « Regard croisé sur ». Et on déclinait l'ensemble des thèmes et on voit évidemment toute la richesse de ces analyses combinées avec l'ensemble des collègues. C'est finalement une histoire ancienne, cette spécialisation sur l'étude des territoires. Dès les années 70, nous avons de nombreux collègues qui ont la particularité de s'intéresser aux territoires, mais aussi de proposer une expertise auprès des acteurs locaux, mais aussi de faire une veille statistique sur les productions de l'époque. Les statistiques étaient relativement rudimentaires dans les années 70 sur les questions de développement régional et de dynamique territoriale. Et les collègues ont toujours, et c'est encore très vivace aujourd'hui dans notre petit groupe de recherche, les collègues ont toujours souhaité intervenir dans le débat public, livrer leurs travaux au débat. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement sain dans le paysage actuel. Donc je suis très heureux de vous accueillir pour cette journée d'études. Cette journée s'inscrit dans tout un ensemble d'initiatives qui vont se dérouler jusqu'à la fin de l'automne et que nous avons labellisé le printemps des territoires parce que on aurait choisi l'automne des territoires, ça aurait été peut-être un peu moins vendeur. Donc nous avons choisi le printemps. Voilà, ça a démarré effectivement au mois de février avec le lancement de ce très très beau numéro de l'actualité Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup Jean-Luc qui fait un travail formidable et qui sait parler avec les paléontologues, avec les scientifiques des molécules et puis aussi avec les géographes, les historiens, les gestionnaires, les économistes, les juristes. C'est fabuleux. On a ici un outil de communication en termes scientifiques qui est absolument fabuleux à travers tout ce que fait de toute façon l'espace Mendès France. Je crois que dans cette période extrêmement chaotique, il est important d'avoir des éléments de réflexion et de discussion autour des enjeux majeurs de la société. Donc ça avait très bien commencé et puis alors ça a continué merveilleusement avec ce colloque sur François Mitterrand et les territoires. Nous avons eu évidemment des apports scientifiques de premier plan. Mais nous avons eu aussi des personnalités importantes qui ont fait l'histoire et nous avons pu visiter une période importante de notre histoire grâce à ce colloque. Et merci beaucoup François, où est-il, François Dubas, qui a pris l'initiative d'organiser ce colloque et qui l'a réussi magnifiquement. On va poursuivre avec cette journée qui a aussi un objectif de publication. La Fédération de Recherche Territoire souhaite réunir les collègues pour une publication commune sur un objet commun et montrer toute la puissance d'analyse que cela produit. Donc à l'issue de cette journée, vous aurez les traces puisque nos échanges et les présentations sont filmés, mais vous aurez aussi un document écrit. Donc nous allons publier très vite les travaux qui sont présentés aujourd'hui. Nous allons poursuivre avec une série de conférences débats autour notamment de travaux qui sont réalisés pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations autour de 5 territoires français qui ont été analysés à travers des enquêtes de terrain. Et l'Espace Main des France nous accompagne pour faire connaître ces travaux en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations. Là aussi, il y aura un ouvrage. Donc, vous voyez que l'actualité éditoriale autour des territoires et les analyses provenant de l'Université de Poitiers, ça sera très, très nourri dans les prochaines semaines. Une exposition, nous allons organiser des conférences débats et puis nous allons lancer un travail sur l'histoire de la recherche autour des territoires à l'Université de Poitiers. C'est très important de se souvenir que nous ne venons pas de nulle part et que nous avons une tradition à manifester de ce point de vue-là. Et par rapport à d'autres pôles universitaires, notamment dans la grande région, c'est important également de marquer notre territoire, n'est-ce pas ? La Fédération de Recherche Territoire, je tiens à souligner cela parce que très souvent ça s'organise dans un petit sérail de l'Université de Poitiers, mais toujours ouvert comme tout ce que nous faisons au grand public, si je puis dire. Nous organisons chaque année une remise des diplômes pour les étudiants qui suivent des formations de master orientées sur les territoires. Et c'est un moment très important. Notre président nous fait toujours l'honneur d'être présent. Il y attache une grande importance. Nous mettons en valeur le travail réalisé par des étudiants qui sont sur des masters donc spécialisés sur les territoires, en droit, en géographie, en sciences de gestion, en économie, en histoire. Et c'est toujours un moment important parce que, d'abord, nous retrouvons notre cohérence. Quand les étudiants présentent leurs travaux, eh bien, on comprend bien que chacun a son utilité dans l'analyse des problématiques territoriales. Mais surtout, cela montre que l'université produit, vous voyez, on a une vingtaine d'étudiants dans chaque promotion de Master 2. Ça veut dire que l'université de Poitiers produit des compétences qui seront au service des territoires de manière extrêmement dense, puisque chaque master est composé d'une vingtaine d'étudiants. Ça veut dire que nous avons chaque année 150-160 étudiants qui vont enrichir les territoires avec leurs compétences, leur dynamisme, leurs projets. Et on oublie très souvent cette réalité-là. Ils ont réalisé des stages, enfin, ils ont participé à la vie des territoires et ce sont des forces neuves qui vont se dédier au développement des territoires. C'est aussi, évidemment, une vocation de la Fédération que de manifester cette compétence-là. Alors, pour la Fédération, cette étape est importante parce que nous allons publier un ouvrage en commun. Donc, c'est une page de l'histoire de la Fédération depuis 2010. C'est compliqué de faire travailler ensemble des chercheurs qui proviennent de différentes disciplines. C'est compliqué. Nous sommes évalués du point de vue de nos propres disciplines. Et lorsque nous publions de manière interdisciplinaire, en général, l'Académie, avec un grand A, ne reconnaît pas ces travaux. C'est très dommageable, mais nous sommes tiraillés entre plusieurs injonctions contradictoires, c'est compliqué. Donc c'est un tour de force que nous sommes en train de réaliser. Nous avons demandé à être évalués par la haute autorité donc, qui fait l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et nous sommes très heureux bientôt de pouvoir manifester cette reconnaissance institutionnelle. Donc depuis 7 ans, un long chemin est parcouru. Cette journée est très importante, comme je viens de le dire, pour manifester notre montée en puissance, et je pense que vous allez pouvoir vous apercevoir de toute l'importance d'une structure fédérative comme celle-ci. Mes remerciements pour terminer, mes remerciements à l'Espace Main des France qui nous accueille toujours dans d'excellentes conditions et nous avons beaucoup de proximité avec cette belle institution. Remerciements aux collègues qui se sont investis dans la préparation de cette journée. Vous allez voir, les propos sont extrêmement fouillés et très approfondis. Ils se sont vraiment investis pour que cette journée ait l'ouvrage qui va paraître soit de grande qualité. Il le sera, j'en suis certain. Merci beaucoup à Mathieu Lee, comme d'habitude, notre ingénieur d'études de la Fédération de Recherche, qui est toujours très scrupuleux pour que les choses se passent très bien. Donc, on n'a aucun souci de ce point de vue-là. Et comme on est en train de déborder sur le temps, là, il n'y est pour rien. Merci aux collègues d'Immédiat. qui vont filmer cette journée, ce qui permettra à ceux qui n'ont pas pu se libérer de savoir ce qui s'est dit aujourd'hui. Voilà, bah, sans plus tarder, je laisse la parole à mes collègues Olivier Boubaoulga et Emmanuel Nadeau pour la présentation de leur papier sur l'importance des régions en Europe. Merci.
Bien, bonjour à tous. Donc, on va vous présenter, enfin, c'est surtout Emmanuel qui va présenter un travail qu'on est en train de réaliser en commun sur effectivement les régions à l'échelle européenne. C'est un travail, donc Emmanuel est en deuxième année de doctorat. C'est un travail qui s'inscrit dans le prolongement d'un travail que j'avais réalisé avec Michel Grossetti, qui, comme disait Yves, hein, l'enjeu c'est de déconstruire un peu, enfin, de lecture critique des modes de pensée sur les territoires. Avec Michel Grossetti, on avait rédigé un article qui a été publié par la revue de l'OFCE en 2015, qui visait à mettre en débat l'indicateur PIB par habitant comme indicateur de performance des régions françaises. Avec Emmanuel, on souhaite un peu élargir la perspective en reprenant un peu cette idée-là, mais à une échelle européenne. Un des défauts, je trouve, y compris le mien, enfin les chercheurs qui s'intéressent au territoire, c'est de toujours travailler sur des données, alors parce qu'elles sont plus facilement disponibles, des données France entière, et de faire comme si la France était une île. Or, la France n'est pas une île, elle a des frontières, etc. Et donc là, l'idée, voilà, c'est de travailler sur des données européennes. Alors, on se focalise sur l'Union à 15. C'est un travail un peu générique, donc il va donner lieu aussi à une présentation en colloque à l'été prochain. Mais là, compte tenu de la thématique et puis de notre localisation, on va aussi faire un focus sur la région Nouvelle-Aquitaine en s'interrogeant est-ce que la région Nouvelle-Aquitaine est si grande que ça. Voilà, donc je laisse la parole à Emmanuel.
Bonjour à tous, merci Olivier. Allons-y, déconstruisons, hein. Ayons un regard critique en fait sur la fusion des régions. Donc je vais vous faire une présentation qu'on a intitulée « Les régions françaises avant et après fusion. Quelles caractéristiques distinctives et quels points en Europe ?» Donc un titre un peu long, tout simplement pour vous parler un peu des régions françaises en Europe. Et voilà, comme l'a dit Olivier, moi ce qui fait un peu ma spécificité, c'est de m'intéresser un peu, sortir un peu du cadre franco-français et s'intéresser un peu à une vision, donner une vision un peu plus européenne des choses. Et le cadre de ce colloque est plutôt approprié. Puisque le point de départ de la réflexion, de notre réflexion sur le sujet, c'est de revenir aux arguments qui ont été mis en avant en faveur de la fusion des régions. Donc ici, j'en ai listé trois, les trois principaux, il y en a certainement d'autres. Alors vous vous rappelez, il y avait la volonté de réaliser des économies d'échelle en réduisant le nombre de collectivités, de simplifier le fameux millefeuille territorial français, donc de clarifier le rôle des collectivités, donc leurs compétences. Et enfin, il y a un troisième argument, alors qui est peut-être moins repris des fois par les politiques ou dans la presse, mais qui est extrêmement important et mis en avant dans les projets de loi et dans le communiqué également que François Hollande avait fait en juin 2014, c'est la volonté de créer des régions de taille européenne, donc plus grandes et plus peuplées, avec l'idée qu'elles soient plus compétitives face aux autres régions européennes. Donc juste pour vous citer voilà, on retrouve par exemple comme argument dans le projet de loi la volonté de doter les régions françaises d'une taille critique qui leur permettent d'exercer à la bonne échelle leurs compétences stratégiques afin de rivaliser avec les collectivités comparables en Europe. Ou encore d'adapter la carte française des régions aux réalités géographiques et à l'Europe des régions. Donc vous voyez, on a l'idée ici d'avoir des régions plus grandes, plus peuplées pour rivaliser avec les autres régions européennes et puis être plus fort finalement dans la concurrence internationale. Donc c'est très bien, ma foi on peut trouver cet argument tout à fait louable et souhaitable finalement, mais ça pose un ensemble de questions. La question centrale qui va guider un peu notre présentation aujourd'hui, c'est finalement les régions françaises étaient-elles trop petites ? Est-ce que nos régions françaises avant la réforme étaient trop petites pour être assez compétitives et lutter dans la concurrence internationale ? Et est-ce qu'elles sont désormais de taille européenne ? Alors je mets taille européenne volontairement entre guillemets pour insister un peu sur le terme et voir de quoi on parle. Et ça amène en fait trois questions qui vont un peu guider la présentation aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'une région européenne ? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'une région européenne ? Et est-ce qu'on peut comparer les régions en Europe? Alors dans le cadre franco-français, quand on parle région, on a un peu tous en tête la même idée, on voit de quoi on parle, le territoire, la structure, le conseil régional. Bon, globalement, on peut vite identifier des caractéristiques communes. Est-ce que c'est le cas en Europe? Deuxième chose, est-ce qu'on peut comparer la performance économique des régions françaises? On veut des régions en Europe, on veut des régions plus compétitives. Comment on compare sur le plan économique les régions et comment on le fait au niveau européen? Et est-ce qu'il existe alors un effet de taille? Est-ce qu'on peut donner à une région une taille critique qui lui permettrait d'être plus compétitive? Et enfin, puisque c'est le cadre des débats aujourd'hui, c'est quelle est la situation des régions françaises et le cas plus particulier de la région Nouvelle-Aquitaine. Tout d'abord, deux points, je dirais, d'éléments de méthodologie, je dirais des points d'attention de méthodologie. Tout d'abord, le terme de région européenne, et ensuite, je reviendrai sur la notion de performance économique et comment on compare les régions. Donc, la première chose, c'est, je vous ai dit, qu'est-ce qu'une région européenne? Comment on identifie une région en Europe? Donc, tout d'abord, on pense bien entendu à la région au sens administratif, au sens institutionnel. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de définition commune de ce qu'est une région en Europe. Quand vous dites région en Europe, en terme anglais, va être beaucoup plus vague. Ça va faire appel à des provinces, au Länder allemand. Donc on va avoir tout un ensemble de configurations. Certains auteurs ont travaillé sur cette question et on peut identifier entre 3 et 10 types de régions en Europe. Alors ça va des fameux Länder allemands ou autrichiens. C'est états fédérés très puissants avec des compétences nombreuses, mais à l'extrême opposé, on a des états comme la Roumanie ou la Hongrie, où finalement le terme région recouvre simplement une structure administrative qui a été créée lors de l'entrée de l'adhésion de ces pays dans l'Union européenne pour gérer les fonds européens. Donc la région n'existait pas en tant que telle dans ces pays et n'a pas d'élus. Par exemple, ces régions-là n'ont pas d'élus régionaux et sont simplement un échelon administratif. Pour des questions purement administratives, pour le coup. Et entre les deux, on a des systèmes de décentralisation plus ou moins avancés, comme ce qu'on connaît en France ou dans d'autres pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on a une tendance vers plus de régionalisation, mais on a certains États qui, par moment, font le choix inverse et recentralisent. Ça a été le cas de la Finlande à un moment donné. Donc, on n'a pas une définition et une vision commune de ce qu'est la région. Et finalement, la région en Europe, dans les pays européens, c'est le fruit de l'histoire politique des pays. Et bien entendu, chaque pays a sa propre histoire politique. Et comparer les régions au sens où on les entend en France, comparer les régions au niveau européen, s'avère un exercice assez complexe. Et dernier point, alors on parle souvent, l'Union européenne, la Commission européenne, on entend souvent les critiques, elle aime à légiférer sur la taille des concombres, la taille des tomates. Alors rassurez-vous, l'Union européenne n'a jamais légiféré sur la taille des régions. Donc l'Union européenne n'impose pas aux pays une taille de région idéale. Elle a certainement son avis, mais elle respecte ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, où chaque État est libre d'organiser finalement ses échelons infra-territoriaux comme il le veut. Et donc l'Union européenne, pour faire face à cette complexité administrative européenne, a mis en place un autre maillage territorial qu'on appelle les régions NUTS. Alors NUTS pour nomenclature d'unité territoriale statistique, en réalité c'est Eurostat qui est l'équivalent de l'INSEE au niveau européen qui a mis en place cette nomenclature et c'est un découpage de l'Union européenne en régions NUTS qui suit dans la plupart des cas le découpage administratif des pays mais qui s'inscrit, le premier critère est un critère de population, donc selon le nombre de populations dans les régions, on est en niveau NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3. Donc voilà, donc pour vous donner un exemple, les régions françaises dans leur ancienne configuration étaient des NUTS 2, des régions NUTS 2. Les nouvelles régions sont devenues des NUTS 1. Donc on a aussi une évolution dans le temps de cette nomenclature. Les Länder allemands sont en NUTS 1, les régions espagnoles en NUTS 2. Donc vous voyez, quand on compare également ces régions NUTS, ce découpage statistique, il faut faire également attention à quel échelon on parle, puis de quelle version, puisque comme on a des évolutions dans les pays, régulièrement on a des nouvelles versions auxquelles il faut prêter attention. Donc comparer les régions en Europe, c'est assez compliqué. Il faut bien faire attention de quel type de région on parle et de quel type de nomenclature, à quelle nomenclature on se réfère. Le plus courant est ce que fait l'Union européenne, c'est on parle de cette fameuse nomenclature NUTS 2, qui est l'unité de base, je dirais, de la réflexion pour les analyses socio-économiques en Europe. C'est sur ce découpage-là qu'on a travaillé à l'échelle européenne. Pardon. Deuxième point, j'irai d'attention méthodologique, c'est on souhaite comparer, donc on souhaite des régions plus compétitives, donc très bien. Comment on compare et comment on estime comment on juge la performance économique des régions? De quoi on parle quand on dit une région est plus compétitive et plus performante sur le plan économique? Alors là, je me réfère aux travaux d'Olivier Boalga et de Michel Grossetti. Donc c'est là où je m'inscris au niveau européen dans la continuité de ces travaux-là. Et donc l'indicateur usuel qui est utilisé par les économistes, les politiques, c'est le PIB et puis sa variante, le PIB par habitant. Et en fait, ce qu'Olivier et Michel Grossetti nous disent, c'est qu'en fait, le PIB par habitant, c'est un indicateur imparfait, insatisfaisant pour mesurer la performance économique des territoires. Et qu'en réalité, ça recouvre un ensemble d'effets qui varient selon les territoires. Et donc, d'une part, on peut décomposer le PIB par habitant en deux facteurs. On a d'abord la productivité apparente du travail. On regarde la création de richesse, donc le PIB mesuré sur le nombre d'emplois sur un territoire. Et d'autre part, ce qu'on appelle les effets socio-économiques. Donc, c'est le nombre d'emplois comparé au nombre d'habitants présents sur un territoire. Donc, on a déjà deux facteurs à l'œuvre dans la composition du PIB par habitant. Et les effets socio-économiques sont eux-mêmes décomposés en quatre facteurs. Donc, on a l'indice de concentration de l'emploi qui compare le nombre d'emplois présents sur un territoire par rapport à la population active occupée. Donc, ça nous donne une indication de l'attraction d'un territoire sur les autres. Parce qu'on peut avoir des gens qui résident dans un territoire et qui travaillent dans un autre. Le taux d'emploi, qui est la population active occupée sur la population active. Donc on a ici le complément du taux de chômage en réalité. Le taux d'activité, qui est la population active sur la population en âge de travailler. Donc on a ici une indication de la taille du marché du travail, si vous voulez, sur un territoire donné. Et enfin, des effets démographiques. Sur la population d'âge de travail, sur le nombre d'habitants. Donc on regarde ici la part de la population entre 15 et 64 ans sur la population dans son ensemble. Donc vous voyez, le PIB par habitant est un indicateur insatisfaisant ou en tout cas imparfait pour juger la performance économique des territoires. Et qu'on regarde la performance économique et comparer la compétitivité des territoires, ça s'avère un exercice ici aussi plus compliqué que s'intéresser à un seul indicateur. Voilà. Donc une fois qu'on a bien en tête ces informations-là, que ce soit sur la taille des régions ou la comparaison des performances économiques des régions, on peut essayer de comparer la performance économique des régions en Europe. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on a repris le maillage en ODS 2 et on s'est limité à l'Europe à 15 afin d'avoir une certaine homogénéité du territoire et proposer une analyse pertinente. Voilà, donc je vais juste vous expliquer un petit peu les cartes. Donc on a produit quelques cartes. L'idée, c'est d'avoir une répartition en quintiles. Donc on a fait 5 groupes de régions et on a regardé un peu est-ce qu'on peut identifier des régions un peu plus performantes sur le plan économique et qu'est-ce qu'on peut en dire. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait un peu long, juste focaliser sur un ou deux aspects. Donc si on regarde le PIB par habitant, on remarque ici deux grands ensembles finalement qui seraient soi-disant plus performants sur le plan économique. C'est ce grand ensemble qu'on connaît un peu sous le nom de dorsale européenne qui va du nord de l'Italie au sud de l'Angleterre, en passant bien entendu par l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas. Et on a un deuxième grand ensemble qui serait les pays nordiques, Danemark, Suède et dans une certaine mesure la Finlande. Et puis nos régions françaises, bon, hormis le cas de l'Île-de-France, on a Rhône-Alpes en Vercors qui se distingue un petit peu, mais globalement sont autour de la moyenne européenne, voire légèrement en dessous. Par exemple, le Limousin serait légèrement en dessous. Donc on aurait un peu cette carte un peu souvent présentée de la comparaison des PIB par habitant au niveau européen. Et puis qu'en fait, quand on décompose ce PIB par habitant, on voit une situation un peu différente et un peu plus complexe. Déjà, on voit que nos régions françaises, sur le PIB par emploi, donc productivité apparente du travail, sont un peu mieux positionnées. Donc l'Île-de-France, bien sûr, le Rhône-Alpes, mais également d'autres régions. Alors, Poitou-Charentes et Limousin restent autour de la moyenne, mais nombreuses régions françaises sont mieux positionnées. Les régions en Europe les plus fortes sur ce critère-là sont les pays nordiques. Donc on voit que les pays nordiques, qui étaient très bien positionnés sur le PIB par habitant, sont bien positionnés parce qu'ils bénéficient d'un très bon niveau en matière de productivité apparente du travail. Par contre, si on regarde le cas de l'Allemagne, on voit une situation un peu plus multiple et plus compliquée. On voit certains États, certaines régions qui effectivement sont bien positionnées, mais d'autres sont plutôt autour de la moyenne, voire en dessous. Donc, quand on regarde l'Allemagne et une partie de la dorsale européenne, en fait, on voit qu'ils bénéficient avant tout d'effets socio-économiques positifs, en très en vert foncé, avec un ratio emploi par habitant très positif. Et là, pour le coup, nos régions françaises, alors toujours, hein, exception de l'Île-de-France, sont plutôt mal positionnés et souffrent d'effets socio-économiques plutôt négatifs, voire sont très mal positionnés quand on les compare à l'Europe. Et donc ensuite, on peut, de même, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut pour chaque indicateur un peu regarder la position de la région vis-à-vis de ses voisines européennes. Et voilà, pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais juste pour vous montrer que les régions françaises, si elles sont mal positionnées sur l'effet socio-économique, c'est alors sur l'ensemble des critères, mais c'est avant tout deux facteurs. C'est l'emploi sur la population active occupée, c'est le nombre d'emplois par rapport à la population active occupée sur lesquels elles sont globalement très en dessous de la moyenne européenne, très, très mal positionnées. Et le second, c'est la population en âge de travailler sur le nombre d'habitants. Vous voyez, on est très rouge. On fait partie des pays où ce ratio est le plus faible, ce qui signifie soit qu'on a une population très jeune, soit plutôt vieillissante. Dans le cas de la France, on sait qu'on a une population plus vieillissante. Et en termes de développement économique, ça pose bien entendu des questions différentes que si l'on compare simplement la question du PIB par habitant. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette question-là. Et donc pour conclure, on va s'intéresser un peu au cas de la Nouvelle-Aquitaine. Donc l'avant et l'après-réforme, et est-ce que finalement notre nouvelle région, Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'elle a une taille européenne? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Finalement, cette fameuse taille européenne, est-ce que d'un seul coup, grâce à la fusion, on peut identifier que la Nouvelle-Aquitaine, ça y est, on est de taille européenne? Donc on a regardé plusieurs indicateurs, bien entendu sur le plan géographique et démographique. Donc là, sur le plan géographique, on regarde bien entendu la superficie, la première chose assez évidente. Alors ce qu'on voit, c'est que la Nouvelle-Aquitaine est désormais la cinquième région la plus grande d'Europe. Alors, on pourrait même dire la troisième région, parce que mes deux premières régions ici sont en fait des régions qui sont situées au nord de la Suède et de la Finlande, au-delà du cercle polaire, donc des régions quasiment pas peuplées. Donc en réalité, la Nouvelle-Aquitaine est la troisième région la plus grande d'Europe. Après Castilla et León et l'Andalousie, plus grande que l'Autriche, plus grande que l'Écosse. Donc de ce point de vue-là, finalement, on peut être fier, on est les plus grands quasiment. Néanmoins, nos anciennes régions ne présentaient pas d'anomalies particulières sur ce critère. L'Aquitaine, par exemple, avait une superficie égale à au land de Baden-Württemberg ou Extremadura en Espagne, et puis avait une superficie égale aux Pays-Bas. Donc vous voyez, nos régions françaises, Aquitaine, n'avait pas d'anomalies particulières. Et le même exercice pour le Poitou-Charente ou le Limousin. Poitou-Charentes a la même taille que la Sicile ou Brandenburg. Bon, allez dire aux Siciliens que leur territoire n'est pas une région. Hein, moi je vous laisse faire. Et donc, ensuite, on peut regarder le nombre d'habitants. Alors, au niveau du nombre d'habitants, qu'est-ce qu'on peut dire aussi ici aussi? Donc, la Nouvelle-Aquitaine est la 14e région. Donc là, je suis revenu sur des régions un peu plus classiques. Je suis sorti des notes. C'est la 14e région en Europe en termes de nombre d'habitants. Donc, les plus grandes, avec 5,8 millions d'habitants. Bon, loin derrière quand même les trois premières régions européennes, notamment la Rhénanie du Nord-Westphalie en Allemagne avec 17 millions d'habitants, mais relativement bien positionnée au-dessus de la moyenne des régions européennes. Et ici encore, alors certes on a une région très peuplée, mais les anciennes régions n'avaient pas d'anomalie particulière, je vous rassure, par rapport au nombre d'habitants. Prenons le cas du Poitou-Charentes, on avait un nombre d'habitants à 1,8 million d'habitants. C'est exactement la population du land d'Hambourg ou du land de Mecklenburg-Vorpommern. Pommeren, excusez-moi pour la prononciation. Donc vous voyez, on peut identifier dans chaque état des régions similaires à nos anciennes régions. C'est le cas pour le Limousin et l'Aquitaine. Alors par contre, une particularité de nos régions et de la nouvelle région, c'est la densité. C'est vrai que si on regarde la Nouvelle-Aquitaine par rapport aux deux régions proches, vous voyez une densité à 69 habitants par kilomètre carré. Bon, on voit très facilement qu'on a une densité, on a de la place en Nouvelle-Aquitaine en comparaison à d'autres régions européennes. Et donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce que la taille, finalement, de la région, la nouvelle région, en fait une région plus compétitive? Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cet aspect-là? Donc, regardons le critère le premier dans ces cas-là, c'est le PIB, la richesse de la Nouvelle-Aquitaine par rapport aux autres régions européennes. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, alors ici aussi, on est la 14e région européenne sur cet indicateur-là. Donc, alors là, on a une sorte d'effet de richesse, si vous voulez. Nécessairement, quand vous additionnez trois anciennes régions, le PIB des trois anciennes régions, nécessairement, la nouvelle est plus riche que les anciennes. Donc, nécessairement, on est mieux positionné qu'avant. C'est très arithmétique. Et on est autour, maintenant, on a un PIB équivalent à d'autres régions d'Angleterre ou d'Italie, par exemple, assez loin, bien entendu, de l'Île-de-France ou de certains Länder allemands. Et nos anciennes régions, ici encore, c'était certes, bien entendu, plus faible, entre guillemets, mais voilà, on pouvait retrouver des régions en Europe similaires sur le PIB en valeur nominale. D'ailleurs, le Poitou-Charentes a un PIB similaire, vaguement similaire au Luxembourg. Bon, pris comme ça, c'est intéressant, je trouve. Voilà. Et donc, regardons un peu la décomposition du PIB par habitant, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Est-ce que nos régions, elles sont plus compétitives, est-ce que la nouvelle région est plus compétitive grâce à la fusion? Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on a plutôt un mot que j'aime pas trop, mais je vais l'employer quand même, une moyennisation des indicateurs économiques. C'est-à-dire qu'avant, alors on voit pas très bien, l'Aquitaine était ici, donc plutôt, alors là, on a la moyenne européenne, si vous voulez, plutôt autour de la moyenne européenne, légèrement en dessous, avec un niveau finalement assez similaire à l'Écosse ou à la Catalogne, par exemple. La Nouvelle-Aquitaine, du fait de la fusion des régions, se situe légèrement en dessous. Et Poitou-Charentes et Limousin n'étaient pas très loin. Donc là, ici, je n'ai pas, bien sûr, pas représenté toutes les régions d'Europe, juste certaines, pour à titre de comparaison. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voit que les régions, elles bénéficient ou elles souffrent d'effets différents. Donc, par exemple, la Nouvelle-Aquitaine, si on continue la ligne, en productivité apparente du travail, elle est dans la moyenne européenne, légèrement au-dessus. Par contre, elle souffre d'effets socio-économiques. Et la Catalogne, qui est juste au-dessus, elle, c'était l'inverse. Donc elle est plutôt, elle souffre d'une productivité apparente du travail un peu négative. Par contre, au niveau des effets socio-économiques, elle est dans la moyenne. Donc vous voyez, pour chaque région, on peut positionner et on a plutôt une moyennisation des indicateurs. Donc là, je ne vais pas reprendre, mais on a créé un petit tableau de synthèse. Pour chaque indicateur, on voit qu'on peut identifier très facilement, finalement, pour que ce soit la nouvelle entité ou les anciennes régions, des régions en Europe qui sont proches de nos anciennes ou de la nouvelle région. Voilà, donc je ne vais pas prendre en détail, mais vous pouvez vous rader rapidement, puis ça sera disponible dans la publication, bien entendu. Et alors néanmoins, avant de conclure, il y a un point sur lequel nos régions françaises s'avèrent, quand on les compare aux autres régions européennes, relativement faibles. C'est lorsqu'on regarde le budget des régions européennes, le budget des institutions. Et qu'on a, alors là, j'ai représenté ici en euros par habitant. Nos régions françaises, alors je ne sais pas si vous les voyez, elles sont toutes en bas. Hein, c'est les petites bleues là. La Nouvelle-Aquitaine est légèrement plus foncée ici. Celle qui est un peu plus longue, la bleue, c'est la Corse, avec un statut qu'on connaît un peu particulier. Et donc ici sont représentées en vert les régions italiennes, en noir les régions allemandes, en rouge les régions espagnoles. Donc vous voyez que nos régions françaises, en termes de budget et de budget par habitant, ici sont très faibles. On parlait tout à l'heure de un peu plus de 2 milliards d'euros, ça peut aller jusqu'à, je crois, c'est 71 milliards pour Rhénanie du Nord. Vous voyez, on est dans des choses. Alors, bien entendu, attention, ça ne dit rien des compétences qui sont celles des régions, ça ne dit rien du rôle des autres collectivités. En France, on a le département, l'État qui intervient beaucoup. Donc, il s'est à prendre aussi, bien entendu, voilà, ça mérite d'être approfondi. Mais quand on compare ces chiffres-là, on remarque effectivement, on a des petites régions et par rapport au souhait d'en faire des acteurs stratégiques, forcément, ça pose des questions. Voilà, donc juste pour conclure, on peut, pour retenir un peu, on a une diversité des régions en Europe, comme je l'ai dit. On a une nouvelle région qui est ni plus, les nouvelles régions dans leur ensemble d'ailleurs, ne sont ni plus ni moins de taille européenne. On ne peut pas dire que la fusion leur a permis d'un seul coup d'avoir une fameuse taille européenne qui n'existe pas en réalité. Les régions françaises, une productivité apparente du travail plutôt bonne et plutôt dans la moyenne de l'Union européenne à 15, mais souffrent d'effets socio-économiques négatifs. Et donc la Nouvelle-Aquitaine, on a une taille européenne XXL, une très très grande région, relativement aussi très peuplée, mais des effets de richesse du fait de la fusion et une moyennisation de certains indicateurs économiques, et qui reste petite par ses capacités budgétaires. Donc si on souhaite faire du développement économique, il va falloir approfondir et réfléchir plus sur le temps long, les spécialisations, les spécificités des territoires, pour aller de l'avant et ne pas se limiter à un indicateur qu'est le PIB ou se limiter à un souhait d'avoir une région qui soit plus grande et qui d'un seul coup deviendrait plus compétitive. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Donc on a choisi pour l'organisation de cette journée de grouper les questions en fin de session, en fin de demi-journée. Donc on va passer à l'exposé suivant. Et si vous voulez bien d'ores et déjà noter tout ce que cet exposé vous suggère, on pourra en discuter ensuite avec l'ensemble des intervenants.
Bien, merci. Bonjour. Mathieu, il y a beaucoup de qualités, mais cette fois, c'est avec Antoine Delmas que j'interviens. Et vous remarquerez une autre qualité de la Fédération Territoire, c'est les binômes intergénérationnels aussi dans les présentations. Je ne dis pas ça pour Olivier et Emmanuel, bien sûr, je ne me permettrai pas. Mais on ne sait pas qui est le plus jeune, effectivement. On restera avec beaucoup d'incertitudes dans cette journée. Bien, donc avec Antoine, on vous présente une étude focalisée sur la région Nouvelle-Aquitaine, menée grâce à un partenariat que je voudrais rappeler entre notre laboratoire, le laboratoire Ruralité, et la Caisse des dépôts et consignations. Et un grand merci à Michel Guérin de la Fondation qui permet ce lien entre nous et la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, elle s'intéresse à cette question-là parce qu'elle a créé une nouvelle direction nationale, une direction territoriale. Et aujourd'hui, elle est préoccupée par cette diversité des territoires qui est rappelée par le beau numéro de l'actualité. Et ce mot diversité, d'ailleurs, on va le conjuguer dans cette communication comme dans plusieurs des communications de cette journée. Étude aussi qui s'inscrit dans, qui est un point d'étape, et c'est seulement un point d'étape d'un long travail que l'on s'est engagé à faire dans le cadre du contrat de plan État-Région, et notamment de ce grand programme de recherche qui est financé par la région, qui s'appelle INSECT, Innovation économique culturelle sur des territoires en mutation, dans lequel l'université est fortement partie prenante et qui, pour nous, constitue une des actions que l'on s'est engagé à analyser. Alors, si justement ce point d'étape, il est symbolisé par le fait que le titre, il n'a pas de seconde partie problématisée vraiment encore aujourd'hui. C'est plus une analyse de la position des petites villes dans la structuration de la Nouvelle-Aquitaine dont il est question aujourd'hui. Et si on la problématise quand même un peu, on pourrait dire comme sous-titre, quel est le rôle des petites villes aujourd'hui dans un contexte de métropolisation du territoire et dans un contexte, Olivier et Emmanuel l'ont montré à l'instant, dans un contexte de région XXL polarisée fortement par une grande métropole. On verra dans un instant le poids de ces petites villes. C'est intéressant, Yves disait tout à l'heure qu'on était dans une réforme importante qui allait changer sans doute les rapports urbain-rural, rural-urbain, cette extension massive des intercommunalités. Ben, nous croyons que le rôle de Chauvigny et de Lusignan va se transformer dans le cadre de cette nouvelle intercommunalité de Grand Poitiers, par exemple, pour donner un exemple concret et donner une perspective concrète à ce travail d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans les 20 minutes qui nous sont attribuées, on va répondre à des questions très fonctionnelles. Quels critères choisir pour définir une petite ville ? Vous allez le voir. Quels sont leurs profils et comment associer les critères les uns avec les autres afin de comparer les villes. Finalement, ça se situe bien à ce travail d'association de critères que vous avez fait sur la région. Toute proportion gardée, on s'inscrit dans cette démarche scientifique pour le faire aussi sur cet objet territorial que constituent les petites villes qui, dans la production scientifique récente, a fait l'objet de moins de travaux ces 15 dernières années. Or, il nous semble que c'est un point de liaison très important entre l'urbain et le rural, peut-être de façon différente que cela a été traité précédemment. Parce que finalement, habituellement, les petites villes, dans la littérature, on les présente de trois manières. Soit c'est des villes relais des métropoles, soit c'est des petits pôles structurants à une échelle de proximité. C'est encore beaucoup ça, on va le voir. Soit c'est des villes en déshérence, en perte de dynamisme et d'identité. Et le terme petite ville, d'ailleurs, accentue peut-être parfois cette vision, cette représentation un peu négative sur cet échelon et cette taille de l'armature urbaine. Donc on va les identifier, ces profils des petites villes, et on va confronter, c'est la prochaine étape, on va tous les deux, au mois de juin prochain, consacrer plusieurs journées à faire le tour d'un échantillon de petites villes dans Nouvelle-Aquitaine pour aller confronter ces résultats au regard des élus, des chambres de commerce, des structures diverses d'aménagement pour voir quelle est la distance qui s'établit aujourd'hui entre ces représentations relativement objectives qu'on va vous présenter et les perceptions par les acteurs de ces représentations statistiques. Et puis, en l'état actuel de notre réflexion, on s'interroge sur la définition même des petites villes qui nous semble parfois lacunaire et sur lequel on reviendra en conclusion.
Alors, ça va être à mon tour de prendre la parole. Il fonctionne ou pas ce micro ? Ouais. Donc là, il a fallu tout d'abord essayer de caractériser les petites villes. Et donc, nous avons fait le choix de cibler, selon un critère géographique, toutes les villes qui étaient situées en dehors des grandes agglomérations, préfectures, sous-préfectures. Pour ce faire, on a utilisé un zonage construit par l'INSEE, qui propose qui discrétise le territoire avec des aires urbaines. Donc on avait le choix, dans un premier temps, de s'intéresser aux petites villes qui étaient situées en dehors de ces aires urbaines, et donc de s'intéresser aux villes qui étaient situées en dehors de ces grandes agglomérations. Ça, c'était un premier point méthodologique. Et le second point, ça a été de définir les petites villes, donc qui sont situées en dehors de cet espace, à travers des seuils. Ce sont des seuils, dans un premier temps, démographiques. Le terme de petite ville tend à se focaliser, dans un premier temps, sur la démographie. Donc, le nombre d'habitants est un critère déterminant. Alors, si les productions scientifiques restent assez rares sur le sujet des petites villes, Dominique l'a rappelé, les quelques productions qui existent, nombre d'entre elles s'attachent à essayer de déterminer le seuil et les seuils pour différencier ces petites villes des autres. Alors, les sociologues, les géographes, tous essaient de proposer leur propre définition, c'est-à-dire qu'on va avoir des seuils très fluctuants, 2000 habitants pour la limite basse, 2500, 3000, alors que la limite haute va varier quant à elle de 20 000, 25 000, parfois 50 000, soit en France ou selon un contexte européen. Alors nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a fait le choix d'utiliser deux bornes, celle de 2000 habitants pour la limite basse et 20 000 habitants pour la limite haute. Ce choix y résulte tout d'abord de constatations liées au terrain, liées aux spécificités de la région Nouvelle-Aquitaine. Si on a choisi la limite basse de 2000 habitants, c'est pour la simple et bonne raison que cela permet d'intégrer des villes qui ont une fonction de polarisation sur le territoire extrêmement importante. Par exemple, on peut se fier à la ville de Confolens, sous-préfecture de la Charente, qui ne compte que 2700 habitants. Et donc une limite basse à 3000 habitants nous aurait forcément contraint d'exclure une petite ville comme celle-ci. C'est la seule à avoir un seuil de population assez bas. Mais en dessous de 2700 habitants, on aurait exclu des villes qui ont des lycées, des villes qui ont d'autres fonctions d'administration du territoire et qui donc sont forcément déterminantes dans la construction et dans l'organisation territoriale de la Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, la limite haute, celle de 20 000 habitants, répond à peu près aux mêmes logiques, à savoir que là, c'est le seuil maximal au-delà duquel on va basculer dans les aires urbaines. Toutes les villes qui sont peuplées de plus de 20 000 habitants, ce sont celles qui sont situées dans les aires urbaines. Et donc, de fait, nous les avions déjà préalablement exclues par la catégorisation proposée par l'INSEE. Donc nous, on a fait le choix également d'exclure toutes ces villes supérieures à 20 000 habitants. Et donc, la plus grande des villes que nous avons étudiée, c'est la ville de Bressuire, avec à peu près de 19 000 habitants. Alors, au regard de ces deux critères, ça nous a permis de retenir un certain nombre de villes.
Donc 137 communes sur les 4500 communes de Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire un peu moins de 600 000 habitants, 10% de la population locale, ce qui est un peu plus que la moyenne nationale, et qui regroupe donc moins de 600 000 habitants. Les autres strates, est importante à signaler, c'est celle de moins de 2000 habitants. Il y a quand même 1 800 000 personnes qui vivent en Nouvelle-Aquitaine dans des communes de moins de 2000 habitants, pour vous situer un peu le tropisme un peu de cette catégorie de villes.
Alors, une fois les villes sélectionnées, donc 20 000 habitants, on a sélectionné 137 villes. Il a fallu qu'on essaie de comprendre un petit peu les dynamiques territoriales qu'elles connaissent, les dynamiques territoriales par lesquelles elles sont traversées. Alors, pour ce faire, on a utilisé 4 indicateurs. Ces quatre indicateurs sont ceux qui figurent sur la partie gauche de la diapositive, regroupent en fait une quantité de variables. Pour être exact, il y en a 18, et donc on ne va pas les lister un par un, mais le premier indicateur regroupe des variables liées à la population, liées à l'accroissement démographique par de populations jeunes ou vieilles, et puis le taux de vacances des logements, et ainsi de suite, avec un indicateur économique, qui, comme selon son nom l'indique, va s'intéresser aux caractéristiques plus économiques de territoire, de services, pour voir un petit peu l'offre territoriale dont dispose chacune de ces petites villes, et puis enfin la volonté d'introduire des notions de culture et de loisirs avec l'intérêt porté aux infrastructures sportives et au patrimoine, etc. Enfin, à travers les théâtres et les conservatoires. Donc vous voyez une diversité d'indicateurs et la volonté d'avoir un panel d'indicateurs variés pour avoir un portrait le plus juste, alors il ne sera pas exhaustif, mais le plus juste possible de chacune de ces 137 petites villes. Donc ces données, ce sont des données essentiellement produites par l'INSEE et puis par l'État. Alors une fois ces quatre indicateurs choisis, il a fallu par un petit scoring, on a attribué un nombre de points à chacune de ces villes, et ensuite on les a catégorisés. Alors pour les catégoriser, vous avez le petit graphique qui figure en bas à gauche de la diapositive, où vous retrouvez nos quatre indicateurs qui sont représentés sur le diagramme, donc par l'ordre indicateurs socio-démographiques, économiques, de services, et puis enfin culturels et sportifs. Et ces indicateurs, on les a représentés sur ce diagramme, qui est séparé par une ligne correspondant à la moyenne. C'est la moyenne de chacun de ces indicateurs pour les 137 villes. On n'est pas à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, c'est important, c'est vraiment la moyenne des 137 villes. Et donc ces indicateurs vont se répartir de manière positive ou négative de part et d'autre de cette moyenne. Et donc c'est à partir de ce diagramme-là qu'on a pu construire notre typologie. Alors, pour faire la typologie, ce qu'on a utilisé, c'est une méthode statistique, une classification ascendante hiérarchique, dont le principe est très simple. Le premier principe, c'est d'essayer de rassembler les entités, donc ici des petites villes, qui se ressemblent le plus. Donc que les caractéristiques, qu'il y ait une certaine homogénéité entre ces petites villes, et qu'entre les différentes classes qui composent cette typologie, il y a au contraire une très grande différence. Donc en statistique, on va parler d'une homogénéité entre les classes et une hétérogénéité, enfin une homogénéité, pardon, entre, à l'intérieur de la classe et une hétérogénéité entre les classes. Ça, c'est le premier principe. Et ensuite, le deuxième principe, c'est le nombre de classes, quelque chose de déterminant. Combien de classes sont pertinentes pour faire la typologie de ces 137 petites villes? Alors, on a fait le choix de retenir 8 classes. La raison est assez simple. La première raison, c'est qu'en deçà de 8 classes, on crée une typologie qui était très caricaturale. C'est-à-dire que les différences étaient trop nivelées et on n'avait pas une finesse de compréhension suffisante. Et au-delà de 8 classes, eh bien, en fait, on avait tendance à introduire des différences, peut-être trop fines, et du moins des différences qui ne permettaient plus de différencier de manière pertinente les petites villes. Donc le nombre de 8 classes a été également déterminé via cette classification ascendante hiérarchique. Alors, vous avez la méthode, vous avez la clé de compréhension à travers ce petit diagramme. Voyons les résultats que cela peut donner sur l'organisation de notre Nouvelle-Aquitaine. Donc une présentation, dans un premier temps, va s'intéresser à des caractéristiques générales et ensuite des caractéristiques un peu plus détaillées. Alors, l'organisation de notre territoire Nouvelle-Aquitain. Dans un premier temps, on va voir le maillage de l'ensemble de nos 137 villes qui sont ici représentées. La taille des cercles correspond au nombre d'habitants, donc est proportionnelle à la population. Trois gammes de couleurs. Les couleurs vertes vont correspondre aux villes les plus dynamiques, qu'on a caractérisées de villes à forte vitalité. Celles de couleur bleue vont s'intéresser aux villes de contraste. On va voir des indicateurs qui vont varier de manière positive ou négative par rapport à la moyenne. Donc ce contraste, c'est cette opposition entre des indicateurs positifs et négatifs. Et puis enfin, dans les teintes orangées, donc là, vous le voyez tout en bas du graphique, enfin tout en bas de la diapositive, des villes pour lesquelles les indicateurs sont plutôt en deçà de la moyenne, voire bien en deçà de la moyenne. Donc ça, c'est la première lecture de l'organisation générale de notre territoire. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir tout d'abord un contraste entre une façade atlantique, une façade ouest, où il va y avoir un maillage de petites villes, et puis une plaque continentale autour du Limousin, de la Charente, nord de la Dordogne et même du Lot-et-Garonne, qui là est un petit peu plus en retrait, d'une part un maillage de petites villes un petit peu plus faible, et d'autre part des villes un petit peu plus en retrait. Donc ça, c'est eu un contraste évident sur notre territoire. Et puis après, si on rentre un petit peu plus dans les détails, on va voir des micro-territoires, des petits territoires dynamiques. Alors, on a identifié ce qu'on a appelé des nébuleuses de dynamique. Vous en avez une tout en haut au niveau du nord de Sèvres, où vous allez avoir des villes à forte vitalité, en vert, Parthenay, Mauléon et puis Bressuire, la plus importante de nos petites villes, autour desquelles gravitent des villes de contraste. Donc ces villes qui ont, pour ici, très souvent un déficit de services. Forcément, elles vont profiter de la plus grande de ces petites villes, mais à côté de ça, elles vont avoir une démographie, une économie assez importante en lien avec des problématiques de périurbanisation. On retrouve donc ce petit pôle, on en a trois, on en a un autre ici au niveau des Landes, et puis le plus important peut-être, c'est cet arc de cercle là qui s'étend de Cap-Breton, on va dire, jusqu'au piémont pyrénéen, donc à Oloron-Sainte-Marie, et donc là, une autre nébuleuse de dynamisme. Ensuite, on va repérer des petits pôles structurants, donc des villes un petit peu isolées au milieu de notre territoire, Sarlat-la-Canéda, cette ville touristique, Saint-Junien, Ussel, donc là on va retomber un petit peu dans notre plaque continentale, et donc là des villes qui ont un rôle essentiel pour ces territoires plutôt ruraux. Et puis enfin, on va trouver une micro-région, alors plutôt deux micro-régions en difficulté. Alors tout d'abord, autour de Limoges, là on va avoir une sorte de circulaire avec des villes plutôt en retrait. Et puis donc ça c'est la première ensemble de villes en difficulté. Et puis ensuite, là, dans le nord du Lot-et-Garonne, dans la Dordogne et dans le nord du Lot-et-Garonne, où là on va avoir une concentration de difficultés pour les petites villes que nous avons catégorisées. Alors ça c'était des premières remarques géographiques. Juste pour finir sur cette première lecture générale, ce qu'on peut voir c'est que les villes les plus dynamiques sont très souvent les plus peuplées. On le voit très bien avec Bressuire, on le voit bien également avec Biscarrosse, qui est la deuxième ville dans notre hiérarchie, et qu'à l'inverse, les villes les plus petites sont souvent les villes les plus en difficulté. Alors si cette variable taille a une réelle importance dans l'explication de notre hiérarchie pour les villes des extrêmes, les plus peuplées comme les moins peuplées, en revanche, pour celles qui sont dans les moyennes, c'est beaucoup plus délicat. Et donc les villes dans les moyennes appartiennent alternativement soit à des villes de contraste, soit à des villes en retrait. Donc là, il faut être beaucoup plus prudent dans une lecture seulement appuyée sur la démographie. Et donc ça nous a amené à nous questionner un petit peu sur la pertinence de la seule variable démographique, comme vous allez le voir par la suite. Alors maintenant, nous allons rentrer dans une lecture un peu plus fine du territoire.
Alors ne perdez jamais de vue notre histogramme, notre construction. Vous avez toujours quatre indicateurs. Donc les villes, les quatre indicateurs, socio-démographiques, puis économiques, puis les services, puis l'indicateur culturel et sportif. Et donc les villes en vert, forte vitalité, de contraste quand certains indicateurs sont positifs, d'autres négatifs, ce qui nous fait différencier trois classes dans les villes de contraste. Les nuances en bleu sont de trois types parce que ça varie énormément. Vous voyez que ça varie même beaucoup dans les villes de contraste et on n'est pas capable de les classer autrement que dans cette classe intermédiaire. Et puis les villes en retrait qui ont plutôt tous des indicateurs négatifs, les quatre en dessous de la moyenne en général, mais avec plus ou moins de d'intensité. Alors un petit peu plus en détail, sans rentrer trop dans le détail, parce que c'est tellement fin parfois que ça peut être un peu fastidieux à l'oral, mais on voit que même à l'échelle des petites villes, il y a des phénomènes de périurbanisation qui se constituent autour de pôles à forte vitalité. C'est le cas par exemple dans le nord de Sèvres, où autour de Biscarrosse et de Cap-Breton, peut-être moins évident sur le piémont pyrénéen, des villes qui ont des pôles comme Bressuire, qui ont des indicateurs socio-démographiques et économiques plutôt élevés, et puis des déficits de services de toute nature dans les petits pôles périphériques, parce que justement les pôles en bénéficient. Parfois, c'est le contraire. Et puis, on va peut-être s'intéresser au profil, on n'en a pas encore parlé, les villes en bleu clair. Vous voyez qu'ils sont dans les villes de contraste, le bleu le plus clair, qui se disséminent sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine et qui se distinguent le plus souvent par leur isolement, en tout cas leur isolement géographique. Il ne faut peut-être pas en tirer trop de conclusions, mais on pourrait penser qu'ils pourraient structurer le territoire en étant appelés des pôles de proximité, comme on les appelle d'ailleurs habituellement, grâce à des indicateurs notamment de services et culturels et sportifs qui sont supérieurs à la moyenne. Donc peut-être qu'il y a une structuration sur cette question-là, mais peut-être un déficit sur la démographie et sur l'économie, mais qui ont une certaine attirance quand même grâce aux services qu'ils ont pu constituer, densifier, de par cet éloignement relatif vis-à-vis du reste de l'armature urbaine. Et puis, il y a les villes les plus en difficulté. On peut peut-être dire un mot des villes les plus en difficulté rapidement. Donc les villes jaunes, les villes en jaune qui se distinguent, qui assument des fonctions administratives et qui se caractérisent surtout par leur situation démographique difficile et par une forte présence des plus de 60 ans. Et les villes en orange et rouge qui se distinguent principalement par la vitalité, peut-être économique, très largement supérieure à la moyenne, mais très en dessous pour le reste des indicateurs. Pour conclure, parce que je crois que le temps passe, par rapport à ce que l'on entend, les classifications habituelles sur les petites villes, vous voyez qu'il y a une très grande diversité et qu'il faut, là aussi, cet objet-là, il n'est pas unique. La diversité des territoires, elle s'applique à la diversité des petites villes. Premier point, parce qu'elles affrontent chacune des mutations tout à fait différentes selon leur contexte géographique et économique et démographique. Deuxième point, l'analyse, évidemment, des petites villes comme objet en tant que tel ne suffit pas. Il faudrait, bien sûr, et on va le faire, rapprocher la dynamique de la nébuleuse du nord de Sèvres avec la dynamique de l'axe ligérien et de la région nantaise et de la région vendéenne. On va le faire. Et puis ça explique bien justement la moindre dynamique des régions, des villes plus souvent notées en orange ou rouge. On remet peut-être en la carte, souvent dans le Limousin, la relative faiblesse de l'ensemble des villes du Limousin s'explique évidemment plus généralement par le contexte du Limousin et son rattachement à une France du centre qui est en difficulté, mais aussi au fait que les grandes villes ont tout capté, sans doute, dans le Limousin et dans la périphérie du Limousin, Limoges, Brive-Tulle notamment, et qui laisse peu de place finalement à la dynamique pour le reste. Puis troisième point.
Et alors pour finir, notre communication et notre projet de recherche a permis d'introduire une finesse supplémentaire, je pense, dans l'analyse des petites villes, qui se concentre ou se résume parfois trop souvent à une analyse seulement démographique, et ça a été un des critères d'ailleurs que nous avons utilisé, le seuil de 2000 à 20 000 habitants. Et donc, ces seuils et cette importance de la démographie nous amènent un petit peu à questionner l'appellation même de petite ville, qui semble resserrer ou contenir les études vers cette variable démographique et vers ces discussions sur le nombre d'habitants nécessaires pour caractériser les petites villes. Alors, nous pensons qu'il faudrait peut-être délaisser cette appellation-là pour mieux ouvrir l'analyse à d'autres thématiques et à d'autres indicateurs, comme nous avons essayé de le faire aujourd'hui. Et donc, cela nous amène à repenser ou à déconstruire et à mettre en débat, comme l'a dit tout à l'heure Yves-Jean, l'appellation même de petite ville pour en profiter et enfin, pour en envisager d'autres ou de nouvelles. Voilà, merci.
Merci Antoine et Dominique. Donc je vais demander à Liliane et Bastien de venir s'installer. Alors bon, pour soutenir votre attention, on essaye de vous surprendre un peu. Donc là on a obtenu un équilibre parfait entre les jeunes générations de chercheurs et les plus anciennes. Et là nous avons la parité homme-femme. C'est un moment important parce que nous ne l'aurons pas deux fois dans la journée.
Bonjour à tous, donc ravi de servir d'égalité homme-femme. Donc on va vous présenter un travail réalisé en collaboration avec Liliane Bonal. Donc on est tous les deux enseignants à l'UFR de sciences économiques de Poitiers et chercheurs au CRIF. Et donc c'est une communication qui porte, alors j'allais dire de façon peut-être secondaire par rapport à cette journée, aux réformes territoriales, puisqu'on est sur un champ spécifique qui est celui de l'enseignement supérieur. Et on va principalement étudier les trajectoires géographiques des étudiants et des diplômés du supérieur, et les circulations qui se font sur les territoires, avec une analyse d'abord plutôt France entière, puis un zoom sur le cas de notre région. Donc le plan de la présentation, donc d'abord je vais revenir sur les principaux objectifs qui ont motivé ce travail, puis sur les données qu'on a mobilisées pour répondre à nos questions, puis dérouler quelques résultats empiriques en deux temps, d'abord des tendances nationales observées France entière, puis un focus sur le cas de l'ex-Poitou-Charentes dans la Nouvelle-Aquitaine, et les tensions qu'il peut y avoir entre les périmètres régionaux et universitaires. Alors tout d'abord, l'objectif principal de cette communication, c'est d'identifier le poids de la mobilité et les différents flux à deux moments importants chez les étudiants. Donc c'est l'accès aux études supérieures, une fois le bac obtenu, puis l'accès à l'emploi, une fois les études terminées. Donc ici, il y a deux événements qui peuvent faire intervenir des mobilités, et on cherche à mieux caractériser les échelles de ces mobilités et le taux de mobilité, tout simplement. Ce degré de mobilité va influencer fortement les marges de manœuvre qu'ont les territoires pour fonder leur politique de développement sur l'attractivité éventuelle des jeunes diplômés qui, on va le voir, sont finalement relativement peu mobiles. Alors, on ne va pas forcément répondre à ces questions, mais pour contextualiser, on trouvait important de mettre en évidence certaines contradictions qu'il peut y avoir dans les discours et dans l'action des décideurs sur les territoires, puisque il y a un discours très prégnant sur l'encouragement de la mobilité, stimulé par la politique de l'Union européenne, stratégie de Lisbonne, etc., qui considère que la mobilité, c'est la base du développement économique et que c'est le vecteur principal de circulation des connaissances. Donc on a, dans les territoires, un discours très pro-mobilité qui vient contraster avec le fait qu'il ne faudrait pas que les talents quittent mon territoire, et j'ai très peur que les diplômés que j'ai formés nous quitte. Donc il faut encourager la mobilité, mais pas celle de mes diplômés. Donc c'est un peu cette tension dans ce discours-là, et c'est sur cet essai de rétention des talents que, donc des ingénieurs, des cadres, des créatifs, là aussi le vocabulaire varie, que certaines politiques vont être fondées. Deuxième contradiction, c'est une forme d'accusation envers la mobilité. On pense souvent que c'est une des causes du chômage, puisque ça crée des problèmes d'appariement, c'est-à-dire la rencontre entre l'offre et la demande de travail. Donc aujourd'hui, on a une demande d'emploi qui est très forte, avec, on le sait tous, un taux de chômage élevé, et à côté de ça, des offres qui ne sont pas pourvues. Et ça, c'est en partie lié au fait que l'offre et la demande ont du mal à se rencontrer, faute de mobilité. Donc la mobilité est jugée trop faible, et en même temps, historiquement, on a tout fait pour que les jeunes bacheliers puissent travailler localement et s'insérer localement. Donc là aussi, il y a une forme de contradiction entre, attention, il n'y a pas assez de mobilité, mais en même temps, les politiques d'aménagement et notamment le plan des universités nouvelles qui a vu, à côté de chez nous, la création de l'université de La Rochelle, mais aussi un certain nombre de départements d'IUT, ont permis des créations de pôles à proximité qui permettaient justement d'éviter cette mobilité. Donc voilà, quelque chose d'un peu contradictoire dans les façons de penser les flux des étudiants et des diplômés. L'objectif secondaire de cette présentation, c'est d'essayer de confronter les systèmes régionaux d'enseignement supérieur qu'on va construire à partir de nos mobilités étudiantes aux découpages administratifs qui sont mouvants ces dernières années. Donc deux principales réformes qui vont impacter les flux des étudiants, enfin qui ne les impactent pas directement, mais qui questionnent la question des périmètres. Donc la réforme régionale avec les nouvelles grandes régions, et donc nous on va voir l'effet de la nouvelle Aquitaine. Et côté université, la tendance aussi à des regroupements. Donc il y avait d'abord la politique des presses, donc les pôles régionaux d'enseignement supérieur, puis les communautés d'établissements, d'universités et d'établissements aujourd'hui. Et ça va parfois jusqu'aux fusions d'établissements plus que du regroupement. Donc il y a ce double contexte avec des périmètres qui ne se superpose pas forcément. Donc c'est le cas, comme le disait Yves-Jean en introduction, de la Nouvelle-Aquitaine, donc, puisqu'on est tourné vers Bordeaux côté région, et la commune Léonard de Vinci actuellement, qui regroupe Tours et Orléans, et Limoges et La Rochelle. Est-il nécessaire que les découpages se superposent ? Donc là, on peut apporter une réponse ambivalente, donc c'est pas clairement oui ou clairement non, pardon. On pourrait dire oui, ça pourrait simplifier. Donc si on est dans une logique extrême de rationalisation, tout serait plus simple si ça se superposait. Donc dans notamment l'instruction des dossiers, des cofinancements de projets de recherche, d'écoles doctorales, mettre en place des formations quand on a le même calendrier universitaire, etc., etc. Donc on pourrait avoir tendance à dire que ce serait plus simple si ça se superposait. De plus, les régions ont des compétences, donc c'est des chefs de file en matière de développement économique, d'emploi et d'insertion professionnelle et d'enseignement. Elles rédigent un schéma régional d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation. Et donc maîtriser sur un périmètre donné ce qui relève à la fois du champ de l'enseignement supérieur et du développement économique, ça peut sembler cohérent. On peut dire non, donc c'est ce que disait Yves-Jean, il y a des périmètres d'action qui sont tantôt, on va être tourné vers le Pays de la Loire, tantôt vers le centre, tantôt vers le Limousin, vers Bordeaux, et il ne faut pas chercher à tout faire rentrer dans des découpages institutionnels. Et là, nous, on travaille sur les mobilités étudiantes. Je vous assure que si on travaillait sur d'autres données, par exemple le co-authorship, donc si on regardait les copublications de nos scientifiques, on n'aurait pas le même périmètre. Donc ça veut dire que c'est pas facile de faire rentrer tous les sujets dans une case. Donc là, attention, on ne cherche pas forcément à répondre fermement à cette question, mais simplement à illustrer à partir de la question des mobilités. Donc on va travailler sur les enquêtes génération du CEREC, qui sont des enquêtes nationales, donc menées par l'institut qui est le CEREC, qui interroge tous les 3 ans une population représentative des sortants du système éducatif, tout niveau de diplôme confondu. Et nous, on va se focaliser sur les individus qui sont en emploi à 3 ans, puisqu'on étudie 2 moments, l'accès aux études supérieures et l'accès à l'emploi. Donc on va se focaliser sur les personnes en emploi. Et on travaille sur 4 générations, ce qui permet de regarder comment les flux évoluent dans le temps. Donc autrement dit, on étudie les sortants de 98 interrogés en 2001, les sortants de 2001 interrogés en 2004, 2004 interrogés en 2007 et 2007 interrogés en 2010. Donc on a des données qui courent sur une dizaine d'années. Par la suite, on va faire voir relativement peu de résultats par période, puisque ce qu'on montre, c'est que c'est assez stable, finalement, les comportements de mobilité. Donc c'est beaucoup de travail d'appariement de données et d'efforts pour finalement montrer que ça bouge peu. Donc c'est comme si on avait les 4 générations finalement traitées ensemble à la fin, mais qui permettent d'évacuer cet effet d'évolution dans le temps. Donc si on rentre dans les détails, on verrait qu'il y a certaines évolutions, mais c'est très à la marge. Donc la géographie des flux des étudiants et des diplômés bouge relativement peu. Comment on s'intéresse à l'enseignement supérieur? On s'intéressera essentiellement à 4 niveaux de diplôme, bac plus 2, puis bac plus 3, bac plus 5 et bac plus 8, où on verra qu'il y a des mobilités différentes. Bon, là, je ne rentre pas dans le détail, simplement la population qu'on a étudiée. Ça permet juste de dire, si vous regardez le total des lignes, que nos générations pèsent chacune environ 15 000 individus. Donc, on a une population qui est représentative pour chacune des générations. Alors, sur les résultats, d'abord, avant de continuer, avoir en tête que les taux de mobilité sont très sensibles au niveau de diplôme. Donc là, vous avez pour chaque niveau de diplôme 2 types de mobilité. En bleu, c'est la mobilité pendant les études, donc entre le bac et les études supérieures. Puis la mobilité d'insertion, c'est-à-dire où je finis mes études, puis où je vais travailler. Donc on a 2 types de mobilité, pendant les études, après les études. Bon, on voit bien que plus on monte dans le niveau de diplôme, plus on est mobile. Donc ça, c'est assez prégnant et ça s'explique par l'investissement en capital humain qu'on va chercher à rentabiliser. Puis plus on a des compétences pointues, plus c'est difficile de trouver de l'emploi localement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que jusqu'au BTS, c'est plutôt des mobilités liées à l'emploi qui sont importantes, alors que pour licence, master, doctorat, c'est plutôt des mobilités de formation. Vous voyez, les courbes orange sont plus hautes jusqu'au BTS et ensuite c'est les bâtons bleus qui prennent le dessus. C'est-à-dire que quand je fais une licence, un master ou un doctorat, je vais plus bouger pour faire mes études et moins ensuite pour trouver un emploi. Donc si on regarde le total, vous voyez, ceux qui ne font pas un diplôme dans le supérieur et ceux qui continuent dans le supérieur, bon, on est vraiment sur des niveaux de mobilité qui sont très très différents. Donc ça, c'est les données brutes que je ne vais pas présenter dans le détail, hein. C'est simplement pour vous dire sur quoi on travaille derrière. En fait, pour chaque région française, donc là c'est les anciennes mais on peut le faire sur les nouvelles, on regarde ce que chacune des régions pèse dans le stock des diplômés bacheliers, puis fin d'études, puis en emploi. Donc par exemple, on voit que la région Île-de-France, elle pèse 17% des bacheliers, donc elle produit 17% des bacheliers, mais 21% des fins d'études supérieures et 25% des emplois des diplômés du supérieur. Donc on voit bien que l'Île-de-France gagne au fur et à mesure grâce au jeu des mobilités, puisqu'elle va attirer un ensemble de diplômés. À partir de ces données-là, donc on peut calculer les deux taux de mobilité que je vous mentionnais tout à l'heure, les mobilités pendant les études, donc on est à 30%, et les mobilités après formation, et on est à 30% aussi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un peu moins d'un tiers des étudiants changent de région pour finir leurs études, et moins d'un tiers des diplômés changent de région pour trouver un emploi. Donc on est sur des taux de mobilité qui sont relativement faibles. Enfin, si je vous sondais sur les taux de mobilité des étudiants du supérieur, je pense que la plupart auraient donné un chiffre plus élevé. Alors, on peut essayer de positionner les régions. Donc là, c'est sur un graphique à double échelle. Donc, d'abord, si vous regardez ce schéma-là, vous voyez que pour une région, on peut regarder combien je forme de personnes. Donc former, c'est les diplômés qui sortent d'une région, qui ont le diplôme dans une région. Puis après, ceux qui y résident en tant que salariés ou travailleurs. Okay ? Et donc, on va avoir des diplômés qui sortent de la région pour travailler ailleurs. Et on a des diplômés d'ailleurs qui entrent pour venir travailler chez moi. Donc je peux calculer à partir de là ce qu'on va appeler un taux de fuite. Donc c'est les sortants sur tous ceux que j'ai formés. Et un taux d'attractivité, c'est les entrants sur tous ceux qui travaillent chez moi. Et donc là, on a positionné les régions. Donc en abscisse, vous avez le taux de fuite. Et en ordonnée, vous avez le taux d'attractivité. Okay ? Ce qui est très très clair sur ce graphique, c'est le cas atypique de l'Île-de-France qui est caractérisé par un taux de fuite très faible. Donc ceux qui finissent leurs études en Île-de-France quittent très peu l'Île-de-France parce que le marché des cadres auxquels prétendent les diplômés du supérieur est très concentré dans la région capitale. Donc c'est ce qui caractérise vraiment cette région Île-de-France, mais en termes d'attractivité, elle est, donc c'est quelque chose qui pour le coup peut paraître un peu étrange, une performance inférieure au Poitou-Charentes et au Limousin par exemple. Donc Poitou-Charentes et Limousin, c'est les deux des régions qui ont le plus de fuites, mais paradoxalement qui ont aussi le plus d'entrées. Donc finalement, il y a un gros effet, nos deux régions, Poitou-Charentes et Limousin, c'est finalement des régions carrefour où on perd beaucoup de nos étudiants, mais à côté de ça, on en gagne aussi beaucoup. Ce qui fait qu'on a un solde finalement qui est quasi nul. C'est l'Île-de-France qui a le solde le plus positif. Et puis, on a des régions donc plutôt nord et est qui, elles, ont des taux de fuite qui sont pas très élevés, mais qui signifient que finalement, il y a un marché local et que les diplômés restent souvent dans ces régions-là, et par contre, des taux d'attractivité qui sont très très faibles. Donc c'est Île-de-France qui a le solde migratoire des diplômés le plus élevé et Nord-Pas-de-Calais le plus faible. Alors, si on essaye de comprendre l'effet des grandes régions sur les mobilités, déjà, donc là c'est un résultat tout simplement arithmétique, à partir du moment où on grossit le périmètre, la mobilité baisse. Donc là, c'est peut-être pas l'effet attendu des régions, mais si on a des plus grandes régions, il y a moins de mobilité, dans les statistiques en tout cas. Donc là, je donne un exemple, un bachelier d'Angoulême qui va faire sa licence à Bordeaux, ou un diplômé de master de Toulouse qui va travailler à Montpellier, ne sont plus considérés comme mobiles à l'échelle régionale. Donc mécaniquement, le fait de grossir la taille des régions fait baisser la mobilité. On a aussi des effets d'agrégation de régions qui ont des profils très différents, ce qui a tendance, donc je reprends aussi le terme d'Emmanuel, à moyenniser la position des nouvelles régions. Donc les écarts qu'on avait entre des régions très dynamiques, enfin très attractives et d'autres très peu attractives, sont un peu gommés par le fait qu'on fusionne des régions aux profils différents. Donc par exemple, chez nous, la Nouvelle-Aquitaine est tirée assez fort vers le bas par le Limousin, par exemple, l'Occitanie est tirée fort par le bas par le Languedoc-Roussillon, puisque Midi-Pyrénées est une région très attractive, plus pendant les études d'ailleurs qu'après les études. Bon, j'avais mis un graphique similaire que celui-là avec les nouvelles régions, mais c'est pas passé dans le diapo, donc je suis désolé. Bon, on retrouve globalement les régions du Nord et de l'Est, donc c'est Hauts-de-France et Grand Est qui ont les soldes les plus négatifs. Île-de-France reste la région la plus attractive, suivie par Rhône-Alpes. Alors, ici, vous avez de représenter deux réseaux, donc on n'est pas passé en chimie, hein, c'est pas des molécules. Vous avez des réseaux avec les nœuds qui correspondent à des régions et les liens. Donc les liens ont été construits de la façon suivante, donc ça vous dit pas grand chose, top 3 réciproque. Il y a un lien entre la région A et la région B si chacune est dans le top 3 des destinations de l'autre. D'accord. Donc, je considère qu'il y a, il y a un lien avec un critère de réciprocité. Donc, par exemple, ça peut être surprenant que Centre n'est pas relié à Poitou-Charentes. Qu'est-ce qui se passe ? Les Picto-Charentais vont massivement vers le Centre, mais ceux de Centre ne vont pas vers Poitou-Charentes, puisqu'ils vont vers Paris. Donc, comme je n'ai pas le critère de réciprocité, par exemple, je n'ai pas de lien entre Poitou-Charentes et Centre. Donc, en haut, vous avez le réseau des mobilités pendant les études et en bas, le réseau des mobilités après les études. Donc, si on regarde un petit peu les grandes régions, donc, bon, ce qu'on observe finalement, c'est qu'il y a des effets de proximité, tout simplement. Les régions qui sont liées, c'est essentiellement des régions limitrophes. Donc, par exemple, Hauts-de-France, donc Nord-Pas-de-Calais et Picardie sont des régions qui ont un lien, que ce soit avant ou après. Grand Est également, sauf que les trois, donc c'est la seule région Grand Est où il y a trois régions qui ont fusionné avec la nôtre. Donc Alsace et Champagne-Ardenne sont liées à Lorraine, mais par contre Alsace et Champagne-Ardenne ne sont pas liées entre elles, puisque la Lorraine, elle sépare géographiquement les deux régions. Donc là, on peut se dire, bah, finalement, il va y avoir peut-être moins de liens concernant l'enseignement supérieur entre l'Alsace et la Champagne-Ardenne. Bourgogne-Franche-Comté, là, c'est deux régions qui échangent le plus d'étudiants, France entière. L'Île-de-France, donc Auvergne-Rhône-Alpes également. Alors l'Auvergne est autant tournée quantitativement vers le Limousin que vers le Rhône-Alpes. Okay, donc elle est, là aussi, elle est un peu coincée entre les deux. Mais Rhône-Alpes et Auvergne, donc bon, là j'ai le critère de réciprocité, mais en termes de poids, c'est quand même plus les diplômés de l'Auvergne qui partent vers le Rhône-Alpes que l'inverse. Alors, le cas de Bretagne-Pays de la Loire, c'est intéressant. Donc c'est le binôme de régions qui a le plus d'échanges à la fois d'étudiants et de diplômés en France. C'est les deux régions qui s'échangent le plus de diplômés en France, alors même que ces deux régions n'ont pas fusionné. Bon, là, c'est un terrain parmi d'autres. Mais les résultats suggèrent que c'est deux régions qui ont quelque chose à faire ensemble. Et pourtant, en l'occurrence, il n'y a pas eu de rapprochement. Bon, Normandie, rien de surprenant. Donc, Nouvelle-Aquitaine. Alors, Nouvelle-Aquitaine, côté formation, le Limousin est plus tourné vers le sud et l'est en termes de formation. Donc, ça veut dire que les bacheliers de Limoges vont plutôt finir leurs études à Lyon, Grenoble, Toulouse. Et très peu à Bordeaux. Par contre, en termes d'emploi, oui, il y a un lien. Bon, donc là, et Poitou-Charentes, bon, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a un lien qui est clair avec Bordeaux. Alors après, bon, là, c'est toute la population du supérieur. Si on affine par type de formation, on a des graphes qui bougent un petit peu. Mais là, on est bien sur l'ensemble des diplômés. Occitanie, donc là, on a un lien entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Quoique, donc là, c'est pareil, Toulouse, en termes de part des mobilités, Toulouse a plus de liens avec Bordeaux qu'avec Montpellier. Mais le critère de réciprocité marche aussi entre les deux. Bon, voilà, c'est pour vous donner un petit peu. Donc, c'est une façon de représenter les choses en termes de flux, et ça marcherait plus difficilement en carto. Donc, c'était simplement pour représenter visuellement ces deux moments de formation. Bon, là, je passe très rapidement. Bon, ce qu'on montre, c'est qu'il y a peu de mobilité, et en plus, si on regarde à quoi ressemblent les mobilités, on se rend compte que, première chose, la plupart des mobilités, elles se font dans une distance géographique très faible. Donc c'est essentiellement des mobilités vers des régions limitrophes. Cette part, pour des régions qui sont proches de l'Île-de-France, donc Champagne-Ardenne, Basse-Normandie ou Bourgogne, ça atteint 60 à 70% des mobilités. Donc 60 à 70% des mobilités se font vers des régions limitrophes, là en l'occurrence Île-de-France. Donc on voit bien que c'est des mobilités avec une portée géographique très limitée, et parfois c'est simplement un effet limitrophe. Donc je suis à côté de la frontière et puis je vais dans la capitale la plus proche pour finir mes études. Il y a aussi un effet de retour. Donc comme on connaît la région du bac, de la fin des études et de l'emploi, on a trois points et donc on peut regarder si les gens éventuellement reviennent. Et c'est le cas pour un tiers des mobiles. Donc un tiers des personnes qui sont mobiles après l'obtention du diplôme, finalement c'est un retour vers ma région d'origine. Donc ici c'est pareil, statistiquement ça permet de discuter un petit peu ces phénomènes-là, parce que c'est des individus pour lesquels on va compter deux mobilités, Mais en fait, ces deux mobilités, elles en pèsent zéro en fin de course, puisque c'est plutôt révélateur d'un phénomène d'ancrage, puisque je bouge deux fois, mais c'est pour revenir d'où je viens. Donc là encore, statistiquement, ça permet de discuter un petit peu ces débats-là. Bon, ça, je laisse. Donc une mobilité relativement faible, puisque je le disais, c'est moins d'un tiers qui bouge à la fois pour finir ses études et pour le travail, et qui est marquée pour plus de la moitié par des phénomènes de retour vers la région d'origine et des effets de proximité spatiale. Ce qui interroge finalement la capacité des territoires à activer ce levier-là pour se développer économiquement, puisque les mobilités sont faibles et sont assez limitées dans l'espace. Je finis très rapidement par des résultats sur notre région. Donc ici, on a produit deux graphiques qui nous permettent de répondre aux deux questions suivantes. Donc, où nos bacheliers vont-ils finir leurs études dans le supérieur et où les diplômés picto-charentais vont travailler. Donc là, vous avez donc pour chaque région, donc en bleu, c'est BTS DUT, en orange, licence, master, puis doctorat. Donc à chaque fois, vous avez ces quatre niveaux de diplôme. Et on a les régions de destination, donc pour les études et pour l'emploi. Ce qu'on remarque, c'est que l'Aquitaine, très clairement, capte une partie importante de nos bacheliers, que ce soit pour n'importe quel niveau de diplôme, et aussi de nos diplômés qui vont travailler en Aquitaine. Donc dans les deux cas, c'est la première région. Ce qui est intéressant, c'est de voir que... les cycles courts, BTS, DUT, c'est plutôt... vont plutôt vers d'autres régions que l'Aquitaine, et l'Aquitaine va plutôt capter nos masters, par exemple, licence master. Donc là, il y a un effet aussi géographie du marché du travail, donc on sait que plus on monte dans l'échelle des diplômes, plus la probabilité de trouver un emploi, ça va être dans des grandes villes. Donc là, on a cet effet-là qui est assez prégnant. Alors quantitativement, Pays de la Loire, pèse quasi autant que l'Aquitaine. Donc ça, là, il y a un gros effet département. Mais Pays de la Loire, c'est une région avec laquelle on a vraiment beaucoup de liens. Limousin, finalement, assez peu. Alors, pour terminer, donc là, c'est une anamorphose qui avait été réalisée par Mathieu, où on a pour chaque département de la région la destination et la superficie de la région, donc grâce à la déformation de la cartographie, qui est proportionnelle à la destination de nos diplômés, donc où nos diplômés vont travailler. Donc, on voit très clairement le poids de la géographie et des effets limitrophes. Donc, la Charente, ils vont très fortement en Aquitaine, un peu en Limousin, très peu en centre et pas du tout dans les Pays de la Loire. Les diplômés de Charente-Maritime se répartissent sur l'axe Bordeaux-Nantes, donc il y en a autant qui montent à Nantes qui descendent à Bordeaux, très peu vers Limousin et centre. Le lien Poitou-Charente-Pays de la Loire, il repose en fait sur les Deux-Sèvres. Donc c'est essentiellement les diplômés cycle court, BTS et DUT des Deux-Sèvres et particulièrement des Nord-Deux-Sèvres qui vont travailler dans les Pays de la Loire. Et le département de la Vienne, c'est celui où finalement on a un éventail de destinations qui est le plus équilibré, puisque là ça couvre assez bien les quatre régions, et notamment l'axe avec Tours qui est plus prégnant pour les diplômés de Poitiers. Donc finalement, on voit bien qu'il y a un tiraillement géographique entre le nord, donc Pays de la Loire et centre, et le sud, Aquitaine, ce qui interroge par notre position centrale finalement de Poitiers géographiquement, ce tiraillement-là entre des découpages administratifs, communes, régions. On ne cherchait pas forcément à apporter de réponse à ces débats-là, mais simplement d'apporter un peu d'éléments empiriques pour éclairer objectivement notre situation. On vous remercie.
Très bien, nous allons prendre un peu de temps pour les échanges à partir de ces différentes interventions. On peut prendre 10 minutes, si vous voulez bien, pour échanger. Qui souhaite prendre la parole ? Là, on a eu... trois interventions très complémentaires, puisque on a une approche très générale sur une conception européenne des régions avec finalement une approche très institutionnelle de la manière dont les espaces peuvent s'organiser au niveau européen. On a eu ensuite une granulométrie très fine sur les petites villes avec une approche des dynamiques territoriales à une échelle très fine. On est passé des grandes aux petites échelles. Et puis là, c'est la question des territoires vécus finalement. Hein. Comment, en se formant et en accédant au marché du travail, on fréquente des espaces et des territoires très différents. Y a-t-il des remarques, des questions ?
Alors, je me présente, je suis Marie Legrand. Je viens ici au nom du Césaire, dans lequel je participe à deux commissions littorales et une commission qui s'appelle la section, qui prépare une autosaisine sur comment faire territoire. Alors, je vous dis franchement mon intention, je viens chercher des aides parmi vous pour m'aider à identifier quelques territoires, en particulier dans l'Aix-Poitou-Charentes, mais ça peut être ailleurs, qui auraient des expériences remarquables en matière de développement durable ou de stratégie de gouvernance originale, etc. Toute initiative m'intéresse. Et puis par ailleurs, est-ce que parmi vous, quelqu'un pourrait m'éclairer sur les enjeux de la convention de Faro ? Qu'est-ce qu'elle a apporté ? Voilà mes questions.
Oui, c'est une petite remarque simplement, c'est par rapport à la cartographie des petites villes de 2 à 20 000 habitants qui ont été évoquées. Évidemment, la loi NOTRe et l'impact de la réforme territoriale va être très importante sur ces niveaux de seuil, puisque le regroupement des collectivités avec un seuil minimum de 15 000 habitants, qui est la nouvelle règle, sauf exception, change la donne. Et deuxièmement, le transfert des compétences au niveau intercommunal, aujourd'hui la commune n'a quasiment plus de compétences, impacte évidemment les services offerts notamment aux habitants. Donc cette donnée me paraît essentielle par rapport au travail qui est entrepris.
Merci. Donc il s'agit plutôt de commentaires.
Vous avez parlé de la mobilité des étudiants à différents niveaux, par exemple pour ceux qui ont dépassé le master. Vous n'avez pas parlé du tout des concours, de l'attractivité des concours. Je suppose que les universités qui ont de bons résultats au concours du CAPES ou l'agrégation sont forcément attractives pour les étudiants.
Oui, donc ça c'est vrai que c'est une question mais qui va être plutôt qualitative parce que là on travaille sur population entière, donc c'est vrai que statistiquement on va prendre tous ceux qui ont un niveau licence, qui ont un niveau master, etc. Et on sait très bien qu'après les modes de recrutement vont dépendre d'une discipline à l'autre, d'un métier à l'autre, et on n'entre pas dans ce degré de finesse. Donc on pourrait faire des zooms après sur des formations précises ou des métiers précis où on peut finalement regarder l'impact des taux de réussite, etc. sur l'attractivité. Mais là c'est vrai que on est vraiment un cran au-dessus, quoi. C'est un travail qui est beaucoup plus macro-régional et on n'entre pas dans la finesse des niveaux de diplôme. Donc on ne peut pas capter ça dans la mesure où c'est propre à des formations précises et ça ne s'applique pas à un bac plus 3 ou bac plus 5. Sur ces données-là, le problème, c'est qu'on perdrait aussi de la représentativité, puisqu'on est représentatif seulement à l'échelle des régions et des niveaux de diplôme, donc au sens bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, et plus on descend fin, moins la probabilité que les résultats qu'on a est fidèle à la réalité. Donc c'est plutôt pour des raisons techniques qu'on ne peut pas aller dans ce niveau de détail-là.
Non, c'était juste je trouve qu'il y a un résultat intéressant dans ce qu'on présentait, par rapport à des questions que se posent les territoires sur l'attractivité. On veut attirer de l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ce serait peut-être à creuser, mais il me semble que ce que montrait un des graphiques, c'est que la mobilité pour les diplômés un peu études longues du supérieur était plus forte au moment, un passage bac-études, et moins forte études, obtention d'un emploi. Et je trouve que ça converge avec d'autres résultats, d'autres travaux de recherche. Les territoires, en fait, ils peuvent attirer via les études. On peut imaginer, par exemple, que sur des territoires, ville moyenne ou quoi, sur Niort, on va attirer dans un IUT, etc. Et que c'est peut-être le bon moment pour essayer d'attirer des gens de l'extérieur. Et qu'en revanche, attirer des gens qui sont déjà en emploi sur des territoires qui sont un peu plus petits, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, il me semble qu'il y aurait des trucs à... Parce que bon, ce discours, enfin, cette question de l'attractivité, on l'entend partout. Hein. Tout le monde veut attirer. Et donc, ça plaide pour dire... travaillons plus avec les établissements d'enseignement supérieur qui sont sur l'ensemble, parce que c'est au moment des études qu'on peut attirer. Et si on arrive à attirer les gens, une bonne partie, enfin certains d'entre eux en tout cas, s'ancrent. Et c'est sans doute pour ça qu'après les études, ils bougent un peu moins vers d'autres régions. Hein, donc c'était voilà. Puis peut-être juste pour compléter un tout petit peu la réponse de Bastien par rapport à la question je le passe après. Ouais. Par rapport au comportement ultra stratégique des gens qui regarderaient les taux de réussite des différentes universités pour choisir où aller préparer son CAPES. Je pense, les gens regardent un peu, mais beaucoup, beaucoup moins qu'on l'imagine, quoi. D'ailleurs, ça se voit aussi dans le fait que les gens, on voit bien quand ils bougent, c'est plutôt sur les régions limitrophes, et on ne va pas regarder les taux de réussite France entière pour savoir où on va aller préparer son CAPES, quoi. Ça me semble assez clair.
Oui, juste en lien avec le propos d'Olivier, cela va à l'encontre de ce qui est en train de se développer dans les régions, qui consiste à dire, par définition, tous les étudiants sont mobiles, et donc on peut spécialiser les universités, et le maillage territorial est peu important. Je dis cela car la présence de l'université de Poitiers, à Angoulême, à Niort, à Châtellerault, est vraiment importante. Je vous donne juste un exemple. L'IUT d'Angoulême attire 56% de lycéens qui viennent de Charente, et il n'est pas certain que ces lycéens iraient à Bordeaux ou à Poitiers si l'IUT d'Angoulême n'existait pas. D'où le choix qui a été le nôtre avec les collectivités territoriales d'ouvrir à la rentrée de septembre une première année de médecine à Angoulême pour essayer de capter des lycéens qui n'iraient pas obligatoirement poursuivre des études supérieures à Bordeaux ou à Poitiers en médecine. Enfin, voilà, cette question de l'ancrage territorial des établissements d'enseignement supérieur est importante, me semble-t-il, au regard de ce que l'on entend de la part d'un certain nombre de responsables politiques qui consiste à dire on peut spécialiser l'université de Pau, l'université de Limoges, de Poitiers, de Bordeaux et les étudiants de toute façon dans cette région, ils vont de Pau à Poitiers facilement. Voilà, parce qu'on entend quand même cela. Donc cela déconstruit cela. Donc merci pour le travail accompli.
Juste une remarque par rapport à la remarque de Pierre sur l'extension des intercommunalités ou même l'extension de la région. C'est vrai que tout ne pourra pas être concentré à Bordeaux comme tout ne pourra pas être concentré à Poitiers dans le cadre des différentes extensions d'intercommunalités. Ça pose la question stratégique de la place des petites villes, si on veut bien se la poser. C'est pas évident qu'on se la pose, c'est pas évident qu'on fasse de Chauvigny et de Lusignan un pôle d'équilibre dans ce grand Poitiers et la question se pose à peu près dans toutes les intercommunalités de la Nouvelle-Aquitaine qui sont à peu près toutes caractérisées par la même typologie, ville moyenne et chapelle et archipel de petites villes. Leur devenir stratégique se pose aujourd'hui vraiment dans l'équilibre territorial qui est maintenant devant nous avec ces réformes institutionnelles. Il ne s'agit pas de transférer que des compétences. On a un vrai travail à faire sur quel équilibre territorial on veut atteindre. Et puis pour la question de Marie Legrand sur des expériences de développement durable, il y a beaucoup de petites villes qui ont fait l'objet en Poitou-Charentes de restructuration de centres-bourgs et qui ont des choses intéressantes à montrer en termes de revalorisation de l'habitat ancien, par exemple. Mais aussi, pour faire le lien, merci Yves d'avoir trouvé sur Internet rapidement ce qu'était la Convention de Faro, parce qu'on était tous asséchés là autour, c'est la valorisation culturelle. Eh bien, le patrimoine culturel est un argument d'attractivité des petites villes, incontestablement. Alors, il ne faudra peut-être pas qu'il est dans un de nos indicateurs, le quatrième que l'on a évoqué là. Si on se base que là-dessus, ça ne sera pas suffisant pour fonder véritablement la multidimensionnalité nécessaire que ces petites villes doivent acquérir. Mais incontestablement, on a en Nouvelle-Aquitaine des villes qui s'inscrivent dans cette forme d'attractivité-là.